Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, ce nouveau rendez-vous qui vous propose de concilier bonne humeur, ferveur culturelle et esprit de compétition. Puisqu'ici, chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent à coups de chronique. Celui qui vous aura le plus étonné sera élu en fin d'émission chroniqueur du jour. C'est vous, bien sûr, qui les départagez chaque jour sur Twitter et Facebook. Mais c'est aussi notre invité arbitre. Et aujourd'hui, je pose la question, sachant que j'ai déjà la réponse. Qui peut-on rêver de mieux comme invité lorsqu'on ambitionne d'allier drôlerie et culture dans une même émission?
C'est Annie Cordy.
Non, Anne, non, non, s'il vous plaît, non, non. C'est évidemment Amélie Nothomb. Bonjour Amélie, bonjour Amélie Nothomb. Merci d'être avec nous. Je vous présente en même temps que mes excuses Anne Le Gall, une des journalistes en compétition aujourd'hui.
Bonjour.
Bon, tant que j'y suis, je vous présente également Eva Rock, ma complice de toujours, qui elle est hors compétition. Vous comprendrez assez vite pourquoi. Mais d'abord, donc, quelle joie. Absolument non feinte ni surjouée de vous recevoir, Amélie Nothomb, pour votre 28e roman, Soif, publié chez Albin Michel. Vous êtes chaque année une des reines, si ce n'est la reine de la rentrée littéraire. Hygiène de l'assassin, stupeur et tremblement, la métaphysique des tubes, vos romans sont des tubes justement. Et ce qui est quand même invraisemblable pour quelqu'un qui publie un livre par an, vous arrivez toujours à nous surprendre, voire à nous désarçonner. Alors là, avec Soif, on est désarçonné mais façon rodéo, puisque vous revenez sur les derniers instants de Jésus à la première personne.
Voilà, c'est tout simplement le livre de ma vie et croyez-moi, je ne dis pas ça chaque année. Depuis que je suis écrivain, et même depuis bien plus longtemps que ça, j'ai toujours voulu raconter cette histoire, parce que cette histoire m'obsède depuis toujours. Jésus est mon héros absolu, je trouve que c'est le personnage le plus romanesque de tous les temps, et je n'ai jamais compris pourquoi Jésus avait accepté d'être crucifié. J'ai toujours trouvé que c'était une aberration et que les explications que nous proposait l'Église étaient des fumisteries atroces.
L'histoire ne vous plaisait pas, vous l'avez réécrite? C'est ça, c'est bien d'être Amélie Nothomb.
C'est-à-dire que je l'ai écrite de l'intérieur. Alors, je préviens tout de suite les gens, non, il n'y aura pas une autre fin. Je suis désolée, il meurt quand même à la fin. Mais au moins, on comprend pourquoi.
Soif aux éditions Albin Michel, on va évidemment en parler durant ces deux heures. Mais le plaisir de la littérature ne doit pas occulter un autre plaisir, celui de la castagne. Je vous présente Jean-Philippe Ballas.
J'aime me battre.
Journaliste en compétition aujourd'hui pour le titre de chroniqueur du jour. Jean-Philippe, qui doit remonter un score cruel pour lui lors de sa dernière prestation, 0. Avec quoi comptez-vous rebondir aujourd'hui, mon cher Jean-Philippe?
Avec une super histoire de téléphone portable. Je vais être cool aujourd'hui, c'est vrai que je me suis fait exploser la dernière fois à plat de couture.
À ses côtés, Amélie, vous avez déjà eu un aperçu du personnage. Anne Le Gall est notre spécialiste environnement. Et quand on sait l'urgence climatique, quand on sait ce qui se passe en Amazonie, la fonte des glaciers, les mille autres priorités qui agitent les membres du GIEC, il était normal, j'ai envie de dire logique, qu'elle nous parle aujourd'hui de la 23e édition de la Nuit des Chauves-Souris. Alors, éclairez-moi, Anne.
C'est un animal fantastique, sachez que
c'est un animal la dégueulasse,
chauve-souris, non, elle vole avec les mains, elle voit avec les oreilles, elle inspire beaucoup d'innovations scientifiques, elle est hyper utile pour la biodiversité. Réhabilitons la chauve-souris.
Vous tenterez de nous convaincre. Voici le programme, l'équipe est sauvage.
Et Amélie Nothomb inquiète.
C'est parti.
J'adore les chauves-souris.
Eh bien, un point déjà pour vous.
L'équipe est sauvage.
Alors Amélie Nothomb, est-ce utile vraiment encore de vous présenter en début d'émission? Soif, c'est votre 28e roman après un enchaînement de tubes qui ferait pâlir les Rolling Stones, la métaphysique des tubes, ni Ève ni Adam, cosmétique de l'ennemi, stupeur et tremblement évidemment. Étant en plus une merveilleuse cliente, il faut le dire, hein, des émissions télé et radio, on vous ressort toujours les mêmes grands thèmes. Oui, vous avez un lien particulier avec le Japon, vous avez vécu... Là, l'animateur s'exclame « Ah, fascinant, Japon, culture millénaire !» Bref, bon, ça c'est fait, clac. Il y a aussi toujours un moment où, en bon français, on aime vous ramener au fait que vous êtes belge. Oui, parce que lorsqu'on dit Belgique, on pense trop vite Brel, alors qu'on peut aussi penser Grand Jojo. On l'oublie trop souvent. Bref, les poncifs habituels ayant été écartés d'un revers de la main, on peut parler de ce 28e roman, Soif, où vous vous mettez donc à la place de Jésus et vous imaginez ce qu'il a pu ressentir avant, pendant et même un peu après la crucifixion. C'est un livre qui étonne, mais qui vous nous l'avez dit, vous travaillez depuis longtemps. Jésus, c'est votre idole.
Bah depuis que j'ai 2 ans et demi, j'avais 2 ans et demi quand mon père m'a expliqué qui était Jésus. Je viens d'une famille catholique, donc c'est normal qu'on initie les petits-enfants à Jésus. Mais je ne pense pas que mon père s'imaginait qu'il allait provoquer un tel effet chez moi. Parce que quand il m'a expliqué, j'ai pensé, mais bon sang, c'est donc lui, ce type qui me parle dans la tête constamment. C'est lui, Jésus, c'est formidable, c'est mon meilleur ami. Il a été mon meilleur ami toute mon enfance. À l'adolescence, ça s'est un petit peu gâté. C'est-à-dire qu'auparavant, je savais qu'il avait été crucifié, mais en fait, ça m'était complètement égal. À l'adolescence, j'ai découvert la souffrance. Et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, Jésus, il a été crucifié, mais quelle horreur. Et on nous propose ça comme quelque chose de bien, mais c'est une abomination. Donc, j'ai essayé de me brouiller avec lui. Mais ça n'a pas marqué. Donc j'ai résolu que je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais que c'était mon copain quand même. Mais ça m'a quand même beaucoup travaillé. Et voici le résultat de tant d'années de rumination. C'est que j'ai écrit ce livre pour comprendre pourquoi il avait accepté d'être crucifié.
Un livre sur Jésus, la crucifixion, ça peut paraître assez solennel, mais il y a toujours de la drôlerie chez vous, Amélie Nothomb. Votre Jésus, ce n'est pas vraiment un surhomme. Hein. Il est même douillé, il a peur de souffrir, de mourir. Il a même une vie sentimentale sur la croix. Il se demande ce qu'il a fait pour en arriver là. Vous n'avez pas peur qu'on vous taxe de blasphème ?
Bien sûr, mais il faut comprendre que je ne l'ai pas écrit dans cet esprit-là. Jésus est un être humain. Je pense que s'il y a moyen de tellement l'aimer, qu'on soit catholique ou non, c'est parce que c'est un homme et qu'il est terriblement attachant. Donc je raconte mon Jésus. Vous savez la chanson des années 80, Personal Jesus ? Mmh. C'est vraiment ça ce livre, c'est Personal Jesus. C'est le copain Jésus que j'ai l'impression de connaître depuis le temps que je pense à lui. Et oui, c'est vrai que je le sens comme ça. Ce que j'adore chez Jésus, c'est qu'il est incarné. Alors, tant qu'à être incarné, je veux qu'il soit, je sens qu'il est le plus incarné des hommes. C'est-à-dire que tout
donc, il vit, qu'il ait une vie même sentimentale,
alors,
amoureuse,
ça, c'est évident,
sexuelle,
ça, c'est
puisqu'il
évident.
A un corps.
Comment est-ce que le champion de l'amour aurait pu ne pas vivre le grand amour avec une femme? En plus, on a toutes les raisons de penser que les femmes tombaient comme des mouches. Il leur parlait à une époque où personne ne parlait aux femmes. Jésus parle aux femmes. On a toutes les raisons aussi de penser qu'il avait une présence extraordinaire. Donc vous imaginez ce type qui a une présence extraordinaire et qui parle aux femmes, elle devait tomber comme des mouches.
Soif, chez Albin Michel, c'est le titre de son nouveau roman. Amélie Nothomb est notre invitée cet après-midi.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures pour rire et découvrir à travers une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Dans un instant, Jean-Philippe Ballas reviendra sur ce phénomène étonnant qui consiste à dégainer son portable dès qu'on est témoin d'une agression, une attitude qui commence à poser problème. On accueillera une étoile montante du rap, on vous concoctera votre programme télé du soir et on fera même les courses pour votre dîner. Bref, Anne, désormais vers 16h, comment faire pour se détendre intelligemment?
Prenez un bain moussant et écoutez Barry White.
Mais non, non, et écoutez l'équipe est sauvage, c'est l'idée du truc.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, nous sommes en compagnie d'Amélie Nothomb, prolifique autrice ou auteur. Qu'est-ce que vous préférez là,
apparemment,
on peut dire. Vous vous en foutez, et je vais vous dire, moi aussi. Qui nous revient avec un 28e roman, son titre Soif, son thème, les dernières heures de Jésus-Christ, du procès à la crucifixion, vu par Jésus lui-même. Amélie Nothomb, vous dites, vous venez de nous expliquer que c'était un projet de longue date, mais cela dit, vous avez beaucoup, beaucoup attendu avant de l'écrire. C'était quoi le déclic?
Mais j'ai énormément attendu parce que, mettez-vous à ma place. Vous êtes écrivain et vous vous dites, tiens, je vais écrire un livre sur la crucifixion de Jésus.
À la première personne.
Non, bien sûr que non. Parce que chaque fois, je me disais, non, écoute, attends d'être un grand écrivain, mûri, attends que le talent vienne. Donc, écris tes petites choses habituelles. Et puis, peut-être qu'un jour, tu auras du talent, tu seras grande et tu écriras ce livre. Les années passaient et je repoussais toujours le projet. Avril 2018, tout à coup, je me dis, ma vieille, t'as plus de 50 ans, qu'est-ce que tu attends? Tu crois vraiment que tu vas encore t'améliorer? Non, tu vas vieillir, c'est tout ce qui va se passer. Donc, tu vas perdre ta force. Donc, autant le faire tout de suite. C'est vrai que tu n'en es toujours pas capable, mais on s'en fout, tu le fais quand même.
Eva Rock.
Est-ce que vous avez une idée de quel sera votre dernier livre?
Aucune idée. Aucune. Vous savez, je suis enceinte de mes livres. C'est une grossesse après l'autre. Donc, le seul projet que j'ai vraiment eu toute ma vie, c'était d'écrire ce livre-ci. Mais quant à mes autres grossesses, on verra bien.
On les suivra. Vous nous inviterez à l'échographie. Ça s'intitule Soif. On continue d'évoquer ce qui est un de vos romans les plus singuliers. Mais vous le savez, ici, dans la rédaction d'Europe 1, une autre soif nous anime, celle de la compétition. Face à vous, rongeant son frein dans les starting blocks, se trouve Jean-Philippe Ballas. Auteur, comme le dirait par euphémisme un commentateur de tennis de France 3 au sujet d'un joueur français éliminé au deuxième tour de Roland-Garros, d'un début de compétition compliqué. 0 point en 4 jours, c'est vrai que c'est pas simple. Mais attention, un champion blessé est un champion dangereux. Et comme j'ai fini de dire n'importe quoi, c'est à vous Jean-Philippe.
Alors je sais pas si vous avez remarqué les amis, mais c'est presque devenu un réflexe. Maintenant, dès qu'il y a une embrouille, une altercation dans la rue, vous dégainez alors. Pas votre pied de biche, non, vous dégainez votre téléphone portable et vous le mettez en mode vidéo, genre « Attention, je te filme, t'es même pas capable de me répéter ce que tu viens me dire, je vais diffuser tout ça, tu vas voir comment t'es bien ridicule et comment tu vas avoir bien des problèmes, mon petit bonhomme. » Ça se fait beaucoup ces derniers temps aux États-Unis. Parfois, ça vaut vraiment la peine, on va le voir, et ça finit même par être assez drôle. Je vous emmène dans une zone pavillonnaire du côté de Dallas avec une dame pas contente du tout. Il y a un food truck, vous savez, ces camions, ces petits restos ambulants. Il y a un food truck qui vient de se garer devant chez elle et qui vend des tacos. Est-ce que vous entendez derrière moi l'embrouille qui commence? Ça, c'est la dame qui déboule en brandissant son téléphone portable, qui filme la vendeuse dans le camion et qui se laisse aller à quelques commentaires bien racistes du genre « Jeune fille, je vais vite appeler la police de l'immigration ». Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle, la vendeuse de tacos? Bah elle aussi, elle sort son téléphone portable.
Portable contre
elle
portable.
Aussi, ah ouais, je ne sais pas si vous imaginez la scène. Donc les deux en train de s'invectiver en brandissant leur téléphone portable sous le nez. Elle filme la vendeuse, donc elle met la vidéo en ligne. Vidéo qui va être très partagée sur les réseaux, notamment au sein de la communauté latino, qui va réagir de la plus belle des manières. Vous entendez les mariachis
derrière. Vous aussi, vous avez le goût des sons de qualité, Jean-Philippe. Ça, loin des clichés.
Ça, c'est un orchestre qui débarque quelques jours plus tard, oui, dans la rue de la Dame pas contente, devant sa maison, oui, un orchestre en costume avec les chapeaux, les trompettes, les dorures et tout et tout. Il y a même un pique-nique géant qui a été organisé dans le quartier. Avec des tacos, évidemment. Alors, la dame, pas contente, elle n'est pas sortie de chez elle. Elle était quand même un peu embêtée. Quelques jours plus tard, elle a donné une interview à la télévision pour dire qu'elle avait été un peu maladroite, qu'elle essayait de vendre sa maison, qu'elle n'est pas vraiment raciste. Penses-tu, mon ami ?
Que sa meilleure amie était portoricaine.
Voilà, pour savoir un peu plus sérieusement que ça devient une vraie arme de dissuasion aux États-Unis pour les gens victimes d'actes de racisme. Ils sortent les vidéos et c'est vrai qu'on voit tout le ridicule de ces gens dans ce genre de situation.
Et Baroque ?
Ça, c'est une chose qui ne peut pas vous arriver, mais notons parce qu'il me semble que vous n'avez pas de portable.
Je n'ai pas de téléphone portable, je n'ai absolument rien, je suis... 100% analogique, le numérique ne passera pas
mais
par moi.
Vous avez reçu mon fax quand même.
Absolument pas.
Même pas le fax. Merci Jean-Philippe, papy à la fois bien mené et informatif. Hélas, à vos côtés, il y a votre rival dans cette manche, Anne Le Gall. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Alors Anne, vous avez une question pour Jean-Philippe.
Alors d'abord, je salue le talent de narration de Jean-Philippe Ballas et la réalisation artistique de cette chronique.
Mais c'est une première pique d'entrée.
Il y a une information que j'attendais que je n'ai pas eue. Quelle est la valeur juridique de ces images devant les
Exactement,
tribunaux ?
Exactement, c'est la question que je me posais moi aussi, Jean-Philippe. Répondez-nous.
Quelle condescendance dans la question d'Anne Le Gall. J'ai envie de vous répondre. Il y a le tribunal, alors certains diront hélas, mais il y a le tribunal aujourd'hui des réseaux. Finalement, c'est ça. Qui fait qu'on sort une vidéo et ça se règle très vite. Voilà, tout simplement.
Mais on ne connaît pas la valeur juridique pour autant. Est-ce qu'on peut produire en justice une vidéo captée depuis son téléphone portable ?
Oui, c'est un argument pour un avocat, évidemment.
Bah, vous savez, je crois que par exemple, les SMS ne sont pas pris en compte.
Et
choses qui paraissent
les SMS
évidentes.
Sont pas pris
je
en compte.
Je ne crois pas. Enfin, il faudrait ça demander l'application. Il me semble.
Et il me semble que le son aussi n'est pas toujours une pièce
et là,
juridique.
Et là, le son, Dieu sait qu'il était important. Jean-Philippe Ballas aura-t-il réussi à inverser la vapeur, à briser le cercle vicieux de la loose dans lequel ils sont dépris ?
J'ai des doutes.
En fin d'émission, ma chère Amélie Nothomb, votre voix contre à triple. Est-ce que potentiellement, il peut avoir votre voix ?
Ah oui, je trouve ça très intéressant.
J'ai adoré Amélie votre livre.
Et décidément, une super invitée. Elle le présente elle-même comme le livre de sa vie. Soif est disponible en librairie. Amélie Nothomb est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage se poursuit et Marlon Brando ne manque à personne puisque les plus beaux esprits d'Europe 1 sont réunis autour du micro pour vous livrer qui une info étonnante, qui une histoire édifiante que vous aurez hâte de raconter ce soir à vos proches autour d'un bon dîner qu'on vous aura aussi aidé à préparer. C'est simple, des types aussi serviables, on n'en avait pas vu comme ça depuis le majordome de Bernard Blier.
Quels sont les ordres, Excellence ?
Une omelette aux truffes.
Très certainement, Excellence, je m'en occupe moi-même.
J'espère que vous nous laisserez un petit pourboire.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue 2 heures d'une compétition rageuse entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui qui vous aura le plus épaté, intrigué ou amusé. Vous votez chaque jour via Twitter et Facebook. Nous sommes cet après-midi en charmante compagnie puisque Amélie Nothomb est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie de son 28e roman Soif chez Albin Michel. Alors, je me doute, hein, Amélie, que lorsqu'on s'appelle Amélie Nothomb, on écrit un peu ce qu'on veut. Je vois mal votre éditeur vous dire « Ouh, ce thème-là, c'est sûr !» Non, mais en revanche, est-ce que tout de même l'idée de vous mettre à la place du Christ, même de nous dire ses sensations qu'il a eues sur la croix, est-ce que ça a étonné, ne serait-ce que dans votre entourage, hein, parce qu'il y a des gens qui vous ont dit « T'es sûr d'aller là-dessus »
Vous savez, je ne parle de mes intentions à personne.
Ah, bah ça
donc, je les ai mis devant le fait accompli. C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, j'ai apporté Jésus chez mon éditeur. Et je dois dire qu'il a été très content. C'est toujours le grand patron qui me lit en premier. Et quand il l'a lu, il m'a dit « Eh bien, c'est exactement le livre que j'attendais de vous. »
Celui-ci, il vous dit ça à chaque fois ou là particulièrement ?
Oh, non. Il m'a déjà refusé des livres hein, et je ne suis pas allée voir ailleurs.
Il vous a refusé des livres au tout début, pas il y a
non,
deux
non,
ans.
Non. La dernière fois qu'il m'a refusé un livre, c'était il y a 5 ans. Donc vous voyez.
Et un éditeur peut se permettre de refuser un livre d'Amélie Nothomb ?
Eh bien oui.
Mais c'est intéressant, vous avez une relation donc très proche avec
j'ai
votre
une
éditeur.
Relation très proche
d'autres
avec
écrivains
mon éditeur.
Diraient bah, t'es gentil coco, je vais aller chez un autre éditeur.
Oui, j'aurais pu le faire, mais j'ai confiance en lui.
Anne ?
Et ce livre qui a été refusé, du coup, vous le gardez à l'esprit ? Vous allez le ressortir, le réécrire ?
Non, pas du tout. Je réfléchis parce que la raison pour laquelle il a refusé de publier ce livre m'a paru recevable. Et donc, je réfléchis.
très intéressante information. Scoop Europe. On continue de parler de soif aux éditions Albin Michel, mais c'est l'heure d'une parenthèse musicale avec Saul et Charlie Winston qui chantent Dusty Men, autrement dit Eva, des hommes pleins de poussière.
Alors là, en revanche, j'ai un peu chaud.
Donc calmez-vous Eva, ils sont pas forcément nus, ils ont juste de la poussière. Saul et Charlie Winston, c'était Dusty Men sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Eva Rock, Anne Le Gall, Jean-Philippe Ballas sont à mes côtés. Ils trépignent à l'idée d'en découdre, car ils le savent, seul un d'entre eux sera élu chroniqueur du jour sous l'œil vigilant de notre invité arbitre. Et nous sommes bénis des dieux, c'est le cas de le dire, car c'est Amélie Nothomb qui nous accompagne cet après-midi. Amélie Nothomb, vous publiez Soif aux éditions Albin Michel, un livre qui a suscité beaucoup d'attentes chez ma consoeur Eva Rock quand elle a cru qu'il s'agissait d'un topo des meilleurs bars à bière de Bruxelles, et non, beaucoup de déceptions quand elle a appris qu'il s'agissait d'un roman où vous imaginiez, à la première personne, les derniers instants de Jésus. Vous nous disiez que Jésus, c'était le héros de votre enfance. Moi, c'était Spider-Man. Vous, c'était Jésus. C'était, vous dites, mon copain, on se parlait. C'est-à-dire, c'est un peu comme votre ami imaginaire, comme on en a tous.
Écoutez, oui, sauf que c'était tout le temps. Je me souviens que dans ma tête, dès que j'étais pas avec les gens, c'était un dialogue avec Jésus. On se parlait et puis il me regardait. Je me souviens très bien d'un après-midi de mes 9 ans où j'étais allée faire du vélo et que Jésus me regardait faire du vélo et que j'étais toute contente parce qu'il me disait « Ah, tu fais très bien du vélo !» Et j'étais très contente.
Et comment vous savez que c'était Jésus ?
Je reconnaissais sa voix, je ne doutais absolument pas que c'était lui.
Donc, on fait un petit point là-dessus, Amélie Nothomb, parce que vos romans sont toujours passionnants et souvent drôles. Vous êtes une vraie croyante et vous êtes authentiquement catholique.
Alors non, je suis née dans une famille extrêmement catholique. J'ai été élevée dans cet esprit. Quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré ma famille au sens clanique du terme, c'est-à-dire les catholiques. Et là, j'ai compris que je n'étais pas catholique. parce que c'est-à-dire que j'ai rencontré le catholicisme au sens du 19e siècle. Avec des pensées, on ne peut plus étriquer. On m'a expliqué que si j'étais une femme, c'était parce que Dieu voulait que j'aie des enfants. Donc, c'était mon but sur Terre, c'était d'avoir des enfants. J'ai dit, mais non, en fait, je n'ai pas du tout envie d'avoir des enfants. On m'a dit, mais tu es folle, enfin, pourquoi crois-tu que... Alors, je suis désolée, la phrase est textuelle. Pourquoi crois-tu que Dieu a voulu que tu aies tes règles ?
Ah oui.
Donc, là, ça m'a vraiment refroidie. J'ai compris qu'en fait, les catholiques et moi, on n'avait pas beaucoup de points communs.
Alors dans le livre, vous n'y allez pas de main morte dans le jugement de Dieu. Il y a un jugement qui est porté sur Dieu par Jésus, qui est le narrateur. Vous faites dire à Jésus, je cite, « Cette crucifixion est une bévue. Le projet de mon père consistait à montrer jusqu'où pouvait aller l'amour. Que sais-tu de l'amour ? Tu ne connais pas l'amour. L'amour est une histoire. Il faut un corps pour la raconter. » C'est violent quand même.
Mais c'est vrai, l'amour c'est un truc physique. Si on n'est qu'un espèce de pur esprit dans les airs, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre à l'amour ? Bien sûr qu'il faut un corps pour vivre l'amour.
Alors tout un corps qui va jusqu'à pratiquer une forme de sexualité.
Bah, je peux pas une forme de sexualité.
La sexualité,
bien sûr, bien sûr.
J'ai lu dans une interview que vous identifiez souvent à vos personnages. Alors, on va rester simple, mais est-ce que vous êtes Jésus ? Est-ce que vous vous sentez Jésus ?
Bien sûr que non.
Ah bon ?
Mais pendant que j'écrivais, je devais me rapprocher autant que possible, sinon de Jésus, au moins de sa situation. Il y a une moitié du livre qui se passe sur la croix. C'est pas un hasard si j'ai écrit le livre à la première personne du singulier. Je devais vraiment placer ma caméra à l'intérieur de lui pour savoir au maximum ce qu'il avait pu ressentir pendant la crucifixion.
Et quel serait le premier miracle que vous pourriez réaliser si vous étiez Jésus ?
Je transformerais l'eau en champagne.
Nous aussi. On sent à travers ce livre Soif, donc Soif sur les sensations de Jésus sur la croix, on sent à travers ce livre que vous avez voulu réhabiliter ce qui a longtemps été dénigré par la tradition catholique, justement, le corps. La soif, c'est la soif que Jésus ressent sur la croix et qui faisait, dit-il, partie de ses plus grands plaisirs sur terre, un plaisir corporel. Pour vous, l'Église s'est juste complètement plantée en diabolisant le corps ?
Complètement planté, c'est un contresens. Enfin, Jésus est incarné et on voudrait nous faire croire que le corps est une mauvaise chose et qu'il faut au contraire s'élever dans les régions spirituelles. Mais ce qui fait que nous sommes des gens, dans le meilleur des cas, sympathiques et bons et capables d'amour, c'est le corps. Ce qui nous rend au contraire pervers, c'est de nous éloigner du corps.
Vous dites également, ce qui me plaît en Jésus, c'est qu'il est un homme comme nous. J'ai cette idée folle que chacun d'entre nous pourrait être Jésus. Mais ce n'est pas une idée folle ça, Amélie Nothomb. Ça ressemble au bouddhisme.
Mais tant mieux. Écoutez, moi, j'ai grandi en Extrême-Orient, donc j'ai peut-être en effet une conception très bouddhiste du catholicisme. Mais tant mieux, je pense que le bouddhisme a énormément apporté au catholicisme. De toute façon, je trouve insupportable qu'il faille choisir une religion. J'aime qu'on aille prendre dans toutes les religions ce qui est bien.
Je le pense aussi, comme quoi les grands esprits et les moins grands se rencontrent parfois aussi. Soif, c'est le titre de votre nouveau roman. Amélie Nothomb passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures pour comprendre le monde qui nous entoure sans jamais oublier d'en rire grâce à la folle compétition que se livrent désormais chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Peut-être Anne Le Gall, qui s'apprête à vendre cher sa peau avec un sujet que je qualifierais de courageux sur l'utilité des chauves-souris.
J'ai enquêté.
Ouais. Eva, vous nous dites ce que vous en pensez ?
Non, j'ose pas, quand même.
Oui, ça vaut mieux. Ça vaut mieux. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Eva Roque, Anne Le Gall, Jean-Philippe Ballas et sous la houlette d'une invitée exceptionnelle aujourd'hui. Chacun de ses romans est un événement. Le dernier s'intitule Soif. Amélie Nothomb est notre invitée et arbitre cet après-midi. Comme vous, elle évalue sur pièce les meilleurs journalistes de la rédaction qui défilent au micro pour le plus grand bonheur de notre culture générale. Or, voici Amélie, votre deuxième concurrente du jour, la spécialiste environnement d'Europe 1, contrairement à moi qui m'écrit... devant la moindre araignée, elle aime toutes les petites créatures de Dieu. Elle n'est qu'amour. C'est pourquoi même les bêtes affreuses ou gluantes qui hantent nos cauchemars ne lui font pas peur.
C'est très hydratant la bave d'escargot, et oui.
Elle est bizarre, on peut dire le mot. Anne Le Gall, ce matin, vous franchissez un nouveau cap dans la bizarrerie en tentant de redorer le blason de cet animal poilu en tout point infâme. La chauve-souris.
Ah oui, petite séance de rattrapage pour ceux qui ont raté la 23e nuit internationale de la chauve-souris qui s'est tenue le week-end dernier et qui ne savent pas encore à quel point cet animal est sympathique et utile pour la biodiversité parce qu'il y a un tas d'idées reçues à chasser sur les chauves-souris. On va le faire ensemble. Petite chronique ludique et interactive. Vrai ou faux, d'abord, pour commencer, les chauves-souris sucent le sang.
Mais non.
Je pense que c'est faux puisque c'est un cliché, non ?
Ouais. C'est faux. Ah. En Europe, c'est faux, effectivement.
Comment ça, en Europe, c'est faux ?
Ah ouais, oh mon Dieu, ça veut dire que dans
certains... Les chauves-souris européennes, il y en a 42 espèces, sont insectivores, effectivement. Elles peuvent avaler, pour certaines, jusqu'à 8000 insectes par mois. C'est quand même très utile. Elles ont vraiment un rôle dans la régulation de la population d'insectes
pour chapeau, la
biodiversité. Donc ça peut aider les agriculteurs, les particuliers. C'est un petit peu un insecticide naturel. Par ailleurs, on le sait moins, mais les chauves-souris sont aussi frugivores. Et parfois, en se nourrissant comme ça des fruits et des baies, elles jouent un rôle dans la pollinisation. Elle déplace les grains de pollen.
En même temps, elle bouffe aux fruits. Voilà. Genre mes fraises que je tente désespérément de faire pousser sur mon balcon.
La pollinisation, c'est essentiel aussi pour la biodiversité. Alors oui, c'est vrai, il y a 3 espèces de chauves-souris qui sont dites vampires. Elles vivent en Amérique du Sud, loin de nous. Elles se nourrissent en prélevant du sang d'animaux.
Mais pas d'humains.
Elles se nourrissent du sang animal. Et cette propriété suceuse de sang n'est pas négative. Elle a été exploitée en médecine, figurez-vous, puisque les molécules anticoagulantes qu'on trouve dans la salive de ces chauves-souris servent à fabriquer des médicaments qui aident à dissoudre les caillots sanguins. Donc voilà, autre inquiétude soulevée par les chauves-souris, elles pourraient se prendre dans nos cheveux.
Ça c'est vrai, je le sens.
Non.
Oui.
Non.
Vrai.
C'est vrai,
c'est impossible.
Eh bien, jamais une chauve-souris se rendra dans vos cheveux.
Écoutez, on a le temps, je vous raconte une anecdote. J'étais dans un zoo en Belgique, Péri Deisa, grand zoo belge qui est magnifique. C'est le plus beau zoo du monde, un des plus beaux. J'ai voulu contraindre mon fils à entrer dans la grotte aux chauves-souris parce qu'il avait peur, il ne voulait pas y aller. Il me dit « Oh papa, je ne veux pas ». Je lui dis « Allez, on y va ». Il n'y avait personne, c'était tout le début, on est d'entrer dans le parc. Il n'y avait personne. Et donc, pour lui montrer que c'était possible et qu'il ne fallait pas avoir peur, je suis entré dans cet endroit. Je pensais que les chauves-souris étaient derrière une vitre. Je suis entré, ils étaient tout noirs et j'ai senti une aile comme ça contre moi. Et je suis parti en hurlant, tel Michel Serrault dans la cage aux folles. Et mon fils a dit Tu vois, papa, que c'est horrible les chauves-souris. Donc, les chauves-souris, elles viennent au contact de l'humain. C'est affreux.
Mais elles ne vous ont pas mordu. Non, mais en fait, les chauves-souris, normalement, se géolocalisent grâce à un système très, très fin d'ultrasons. Elles peuvent repérer des objets à distance, jusqu'à 50 mètres, grâce à un système de radar. Donc, ça aussi, c'est très utile. Ça a été exploité dans l'aéronautique. Ça a été utilisé pour fabriquer des cannes pour les personnes malvoyantes, pour qu'elles puissent, grâce à leur canne blanche, repérer des objets. Donc ça aussi, c'est très utile. Et si une chauve-souris entre dans ce studio, Mathieu, elle n'ira pas, elle sera à vous repérer normalement. Donc pas de stress, vraiment. Et surtout, elles ne mordent pas les chauves-souris, sauf si on les agresse. C'est pour ça que si jamais vous trouvez une chauve-souris blessée, prenez quand même des gants pour déplacer.
Ça t'inquiète, une pelle, oui.
Vous êtes dur. Les chauves-souris blessées, idéalement, il faut la placer dans une boîte à chaussures avec des trous.
Évidemment.
Et vous appelez l'association de sauvegarde des animaux, l'association locale.
Mais elles sont en voie de disparition, les chauves-souris, ou pas ?
Oui, pour 2 raisons. D'abord, à cause de l'urbanisation qui détruit leur habitat. Elles vivent en général sous les ponts, dans les hangars, en haut des arbres, dans les petits trous des murs. Donc ça, il y a de moins en moins de petites cachettes comme ça pour elles. Et deuxième raison, c'est qu'il y a de moins en moins d'insectes. Donc, Elles peuvent de moins en moins s'alimenter avec ces insectes et elles disparaissent effectivement.
Merci Anne Le Gall.
Alors, dernière question, parce qu'il y a une question quand même qui m'a taraudée et j'ai enquêté. On dit souvent que la chauve-souris n'émet pas de cris puisqu'elle émet des ultrasons. Mm-hmm. Donc ma question c'était, mais est-ce que finalement on peut entendre, l'oreille humaine peut-elle entendre le cri de la chauve-souris ? Existe-t-il ce cri ?
Et donc ?
Eh bien, j'ai appelé un biologiste, j'ai appelé le président d'Agir pour l'environnement qui s'appelle Karine Lapp, que nous avions reçu l'année dernière dans la matinale, et il m'a confirmé que les chauves-souris ont un cri. Ce cri, saurez-vous le reconnaître ? Attention, deux possibilités. Est-ce que c'est celui-ci ? Réponse A.
Ça ressemble à ce que j'ai entendu dans la grotte.
C'est un singe,
ou bien,
ça, non ?
Est-ce celui-ci ?
C'est ça.
Ah oui, peut-être plutôt c'est celui-ci ça. Quand même, une chauve-souris, oui.
C'est ça.
Vous dites B ?
Moi, je dis B.
Non, je dis A.
Alors, c'est la réponse A. La réponse B, c'est le bruit de la porte d'une grange.
Eh oui !
Voilà.
Bien joué.
Vous avez entendu
Anne
le cri de la chauve-souris.
On ne verra plus jamais les chauves-souris de la même manière. Mais là, vous n'y couperez pas, voici... La question vache de l'autre chroniqueur. Jean-Philippe Ballas, cette histoire de chauve-souris vous a emballé ou pas ?
Bah déjà, jouer sur la peur des gens, enfin, bon, je pense que...
c'est assez mesquin.
Je pense que
c'est
les auditeurs ne sont pas dupes.
Pour les rassurer.
J'ai une vraie question piège, Anne, puisque vous parlez des chauves-souris. Quel est le super pouvoir de Batman ?
Je suis nulle en Batman.
C'est vraiment une question piège, parce que moi je connais la réponse.
Alors Mathieu ?
Vous êtes piégé, Anne, vous n'avez pas la réponse ?
Non.
Moi je connais le super pouvoir de Batman. Il n'en a pas.
Eh oui,
il aime juste les chauves-souris.
Batman,
comme ça. Il est
milliardaire,
bizarre, ce Batman.
Il est milliardaire, il a une super voiture.
Mais qu'a-t-il
super
fait pour
combi.
La biodiversité ?
Mais ils volent quand même.
Ils ne volent pas, justement. Amélie, ton nom. Ils ne volent pas, Batman. Il a des gadgets pour se propulser, mais ils ne volent pas. C'est un homme normal, c'est pour ça que c'est mon super-héros.
C'est formidable, ça. C'est un peu Jésus. C'est formidable.
Prochain livre.
Mais oui.
Jésus versus Batman. Merci Anne Le Gall. Votre courageuse tentative de réhabilitation de la chauve-souris suffira-t-elle à faire de vous la chroniqueuse du jour ? Vous votez via Twitter et Facebook.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue avec aujourd'hui Amélie Nothomb, notre invitée à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Soif aux éditions Albin Michel. Amélie Nothomb, dont le talent et le côté prolifique peuvent agacer, moi par exemple, mais rira bien qui rira le dernier, car Amélie, vous êtes peut-être forte en livre, mais êtes-vous forte en quiz ? Dans quelques instants, vous serez opposé à Eva Rock, et je peux vous dire que là, votre licence en philologie romane ne vous servira pas à grand-chose. À moins évidemment qu'il y ait des questions sur la philologie romane.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures de gai savoir, Aurélie Nitsch, de bonne poilade, Aurélie Tex. En jeu, non. Un titre extrêmement convoité, celui de chroniqueur du jour. Il viendra récompenser en fin d'émission le journaliste le plus méritant, celui dont le sujet vous aura le plus étonné. C'est donc vous qui décidez, vous et Amélie Nothomb, l'autre reine des Belges. Comment se passe l'émission jusqu'à présent, ma chère Amélie ?
J'adore.
Vous adorez, vraiment, vous êtes sincère ?
Ah bah oui.
Ça fait plaisir. Ensemble, on parle de ce 28e roman, peut-être un des plus importants pour vous, Soif, chez Albin Michel. L'angle principal que le narrateur Jésus lui-même nous raconte ces derniers jours est déjà assez intriguant, mais le titre Soif l'est finalement encore plus. Pourquoi avoir abordé Jésus par l'angle de la soif ?
Parce que pour moi, c'est exactement ça à la foi. J'ai toujours su que j'avais la foi avant même qu'on me parle de Dieu, parce que j'ai toujours eu soif. J'ai une grande assoiffée devant l'Éternel. Et je pense que quand on éprouve vraiment profondément la soif, on est dans un état mystique absolu. Il n'y a rien de plus mystique que d'avoir soif. Cultivons notre soif. Et nous serons tous des mystiques.
Jean-Philippe Ballas, vous voulez intervenir ?
Est-ce que vous avez posé la question à Dieu avant de sortir le livre ? Est-ce que tu es d'accord ?
Au pape, à minima.
Bah, Dieu, je ne l'aurais pas fait, mais à Jésus, oui.
Et il vous a dit quoi ?
Il a dit oui.
Le livre validé par Jésus. Alors dans ce roman, on s'éloigne assez joyeusement du Nouveau Testament. On croise Judas, on croise les miraculés qui ne sont pas contents des miracles, on croise Marie-Madeleine, amante de Jésus, on croise même soudain, alors que Jésus porte sa croix, une certaine Véronique qui trouble elle aussi notre Jésus et qui déclare carrément « Je me retrouve devant la plus jolie femme de la terre, c'est ça le coup de foudre ». Chaud la fin quand même ce Jésus. Mais non, mais parce qu'il est avec Marie-Madeleine et il est en train de porter la croix, il voit une autre meuf et il kiffe. C'est quand même un sacré Jésus ça.
Mais oui, mais bon, c'est pas parce qu'on est amoureux fou qu'on peut pas être ébloui par la beauté d'une autre femme. Ce sont des choses qui arrivent et ça veut pas du tout dire qu'il aime plus Marie-Madeleine.
Ah bon, je suis un peu rassuré quand même. Vous savez, moi je suis ça un peu comme un feuilleton. Reprenons s'il vous plaît la citation de tout à l'heure, in extenso. Cette crucifixion, donc c'est Jésus qui parle, cette crucifixion est une bévue. Si seulement cette idée n'était que sotte, elle pourrait demeurer inutile. Et là, elle est nuisible jusqu'à l'épouvante, des théories d'hommes vont choisir le martyr à cause de mon exemple imbécile. Donc derrière la légèreté du livre, il y a quand même un message qui est que le spectacle de la crucifixion de Jésus a eu des séquelles terribles.
Mais bien sûr, et on est tous dans ce monde-là, ça dépasse de beaucoup le christianisme. D'abord, les trois grandes religions du livre professent le supplice, le martyr, le sacrifice sont considérés comme des valeurs, alors qu'il ne peut en venir que des choses néfastes. Et nous sommes dans ce monde-là qu'on cesse d'encenser la souffrance. Rien de bon, rien de beau ne peut provenir de la souffrance, une fois pour toutes.
Alors, nous sommes allés un peu loin dans l'analyse du livre pour une émission de divertissement. Nos neurones sont éprouvés, surtout celui des Varocs. Je propose donc qu'on passe au quiz. Je le disais tout à l'heure, s'il y a une chose que je déteste, ce sont ces émissions prévisibles qui vous proposent des quiz idiots sur une thématique trop souvent associée à l'invité. Vous comprendrez donc que je vous propose à présent, cher ami Newton, un quiz sur le Japon. Ah, fascinant Japon! Vous serez opposé à Eva Rock, la geisha du vieux Nice. Le principe est simple, c'est un vrai faux, vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. On commence avec vous Amélie. La célèbre voiture japonaise Toyota appartient à la famille Toyoda, avec un D. Vrai ou faux ?
Vrai.
C'est la bonne réponse. Sakichi Toyoda, né en 1867, est le fondateur de Toyota. Akio Toyoda, actuel président de la marque, est son petit-fils. Mais savez-vous pourquoi ils sont passés de Toyoda à Toyota ?
Ah ça non.
Parce que, eh bien figurez-vous que c'était plus esthétique quand on écrivait la marque. Alors je ne sais pas si vous écrivez le japonais.
Je vois
pourquoi.
Voyez,
vous voyez,
je suis d'accord.
Pourquoi. Et nous aussi, puisqu'on aussi.
Oui, c'est là que c'est vrai.
Eva Rock, si vous allez au Japon et que vous trinquez, évitez de dire chin-chin, parce que ça veut dire sale type. Vrai ou faux ?
J'ai peur qu'en fait la réponse...
Mais n'essayez pas d'analyser, donnez-nous une réponse.
Je dirais que c'est vrai.
Eh bien, c'est faux, Eva.
Ah mince,
eh bien, c'est
ça
faux.
Veut dire
par contre, évitez quand même de dire chin-chin.
Oui, ça veut dire, ça désigne le sexe du petit garçon.
Voilà, donc si vous voulez pas finir en tôle, évitez de dire chin-chin. Attention, cette fois une question, trois propositions, tout le monde joue. Au Japon, les compagnies de train ont une étrange coutume. 1. Elles offrent des tickets gratuits aux usagers qui prennent en photo les fraudeurs. 2. Elles proposent aux voyageurs de défier certains contrôleurs au judo. Ou 3. Elles font un procès aux familles des personnes qui se suicident en se jetant sous les trains. Que répondez-vous ?
3.
La 3. Elles font un procès aux familles des personnes qui se suicident sous les trains.
Et moi, j'aurais dit la 1.
Elles offrent des tickets gratuits aux usagers qui prennent en photo les fraudeurs. Non, oui. ça c'est en Suisse, je vais vous dire. Enfin, dans les bus suisses, en tout cas. Oui, c'est vrai. C'est dans les débuts de la TPG, les transports publics genevois, on vous incite à dénoncer
c'est
votre voisin.
Horrible.
Et non, au Japon, c'est beaucoup moins horrible que ça. On fait des procès aux personnes qui se suicident en se jetant sous les trains. Bonne réponse d'Amélie Nothomb. Incollable.
Horreur.
Incollable sur le Japon. Eva Rock, au Japon, depuis juin dernier, une loi interdit de pratiquer le karaoké en état d'ivresse. Vrai ou faux ?
Je dirais faux, c'est impossible de faire un karaoké sans être ivre.
En ce qui vous concerne, mais n'universalisez pas votre...
Pour tout le monde. Non, je dirais que c'est faux.
Bon, vous avez raison, c'est faux. Par contre, un décret a été voté pour interdire la conduite d'un drone en état d'ivresse.
Ah bah
visiblement,
oui, évidemment.
Ça commence à poser des problèmes.
Bah oui.
Amélie Nothomb, c'est la dernière question qui va vous départager. Si on vous apporte un plat, alors, ikizukuri, pas si je le prononce bien, ça signifie que ce que vous allez manger est encore vivant. Vrai ou faux ?
C'est vrai.
Oh ! Incollable, Amélie Nothomb !
Oui !
Alors ça, c'est incroyable, c'est une méthode de cuisine très ancienne. On voit pas ça par chez nous. C'est généralement du poulpe, de la carpe ou du homard. On la coupe et on la cuit juste ce qu'il faut pour le maintenir en vie. Ce genre de plat est très controversé en Occident. Étonnamment, il est même interdit en Allemagne. Jean-Philippe ?
En même temps, on mange des huîtres.
Eh oui, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
C'est vrai, on mange des huîtres, mais elles sont vivantes, les huîtres.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Et vous en avez déjà mangé, Amélie
Nothomb ? Bien sûr, souvent.
Et c'est très bon.
Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit meilleur.
D'accord.
Et personnellement, je n'aime pas beaucoup cette méthode.
C'est une curiosité.
Oui.
Le résultat de ce quiz, les amis en régie, je crois que c'est 3 à 1 pour Amélie Nothomb qui triomphe magistralement. Bravo, Amélie. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous faire harakiri avec votre stylo bic Europe 1. Respectons les traditions. La soif, c'est le titre de son tout nouveau roman. Amélie Nothomb est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue. 2 heures pour rire et découvrir dans une ambiance chaleureuse mais compétitive, puisque chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour. Vous votez via Twitter et Facebook. Au fond, c'est une sorte de radio-crochet. Pour qui Amélie Nothomb se retournera-t-elle ? D'autres concurrents arrivent. Restez avec nous.
Europe 1, 16h-18h,
L'équipe est sauvage. 16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures de bonne humeur pour étancher votre curiosité de l'actu, du monde qui nous entoure en compagnie de la fine fleur du journalisme Made in Europe 1, des journalistes qui se tirent la bourre pour le titre de chroniqueur du jour sous l'œil de notre arbitre Amélie Nothomb qui publie Soif chez Albin Michel. À ce stade, Amélie, pour qui votre cœur penche-t-il ? Jean-Philippe Ballas et ses bagarres filmées au smartphone ou Anne Le Gall et ses chauves-souris sympas ?
Bon, c'est difficile. Bon, je préfère les chauves-souris, mais je trouve l'autre thème très intéressant aussi.
Pour l'instant, c'est match nul. J'ai l'impression que votre cœur balance encore. Vous avez encore le droit de changer d'avis de toute façon. Pour l'heure, on écoute Alec Benjamin, Let Me Down Slowly sur Europe 1. Let Me Down Slowly, c'était Alec Benjamin sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Anne Le Gall, Jean-Philippe Ballas et notre invité d'honneur Amélie Nothomb, star de la rentrée littéraire avec son nouveau roman Soif chez Albin Michel. On continue d'en parler ensemble, Amélie, mais d'abord, Eva. Wesh Macaille. C'est comme ça que parlent les jeunes. Enfin, les jeunes, il y a 10 ans. Quoi de neuf du côté du rap français ? Désolé Amélie, on n'est pas allé voir du côté du rap belge. On s'est contenté de voir ce qui pouvait arriver en France de mieux que Jul. Et on a trouvé. Alors, vous allez me dire, on avait déjà trouvé mardi, hein, lorsqu'on a exhumé la bande démo d'Eva Rock.
Non,
MC Pisse à la Dière, comme on l'a surnommé dans le petit milieu de la night. Hein, c'était une bande démo qu'elle avait produite l'année dernière dans des circonstances encore floues.
Yo !
Pour rappel.
Le rap, c'est pas du tout ma cam.
Voilà. Le mot honte n'est pas galvaudé dans ce moment que nous allons vivre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on a trouvé mieux. Bonjour Riles Kassimi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rappeur, vous avez 23 ans, vous êtes autodidacte. Votre premier album Welcome to the Jungle sort demain chez Universal, en France, aux États-Unis et en Angleterre. Et cet album, vous ne l'avez pas concocté dans les studios de Los Angeles ou d'Abbey Road avec la supervision de 17 producteurs artistiques, mais dans votre chambre de 9 mètres carrés près de Rouen, c'est ça ?
Exactement.
Comment vous avez fait ?
En fait, j'ai toujours vécu dans la même maison depuis 23 ans maintenant. Et j'ai eu, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, la chance d'avoir eu des parents pauvres. Je dis une chance parce que ça m'a conditionné à faire avec mon environnement, qui a été la même chambre dans laquelle je vis depuis 23 ans maintenant. Et c'est là que j'ai appris à faire des instrus, à mixer, à masteriser, à enregistrer ma voix et à faire mes clips tout seul dans la chambre.
Alors justement, une question sur le côté autodidacte. Vous avez appris à faire des instrus comment ? En regardant des tutos sur Internet, en regardant d'autres faire sur Internet ou vraiment absolument seul ?
Exactement sur Internet. En fait, j'ai commencé il y a 8 ans maintenant. Et à l'époque, il y avait quelques vidéos sur YouTube, beaucoup de forums d'entraide. Et après, c'est la pratique, quoi. C'est la pratique et on fait des erreurs, on se casse les dents, on se relève et on essaie de s'améliorer.
Au départ, vous vous êtes fait connaître en faisant le pari de poster tous les dimanches un titre sur les réseaux sociaux. Donc déjà, vous êtes très prolifique parce que tous les dimanches, c'est quand même un sacré défi.
C'était très difficile, ouais.
Vous aviez beaucoup de followers à l'époque ?
Non, en fait, justement, vu que j'étais en full indé, c'est-à-dire que j'avais
full indé qui veut dire totalement indépendant.
Totalement indépendant, donc pas d'attaché de presse, vraiment aucune connaissance de l'industrie, de comment ça se passe. J'étais juste seul avec Internet dans ma chambre et j'arrivais pas à percer. Je sortais des sons, je sortais des clips et ça faisait 1000 vues sur YouTube, mais je sortais que tous les 3 mois. Je me suis dit maintenant la consommation de la musique, heureusement ou malheureusement, elle est beaucoup plus effrénée qu'avant. Il n'y a plus un... Avant, on écoutait je pense un single, il tournait en radio pendant 6 mois, 1 an. Et maintenant, tout le temps, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Et je me suis dit le seul moyen de me démarquer par rapport à ces artistes qui sont signés et qui sont mis en avant alors qu'ils n'ont pas forcément une grosse discographie, c'était de mettre en avant les moyens que j'ai de produire un son tout seul, mais de le faire une fois par semaine. C'est-à-dire que tous les dimanches...
C'est cette performance-là qui a attiré les
voilà,
gens.
En fait, j'ai sélectionné le dimanche. Pourquoi ? C'est le jour où personne travaille, où tout le monde se repose, et c'était l'angle d'attaque que je pouvais attaquer pour commencer déjà à attaquer, entre guillemets, le marché. Et toutes les semaines pendant 1 an. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est 1 an dans une vie, c'est rien.
Oui, bah, oui effectivement.
C'est
vous
rien
avez composé donc 52 titres,
exactement,
dont certains ont été écoutés sur Internet plus de 30 millions de fois, on est loin des 1000 vues, comme Brothers. Eva Rock m'a l'air séduite.
Mais oui, ce titre, vous l'avez fait dans votre chambre, tout seul.
Entièrement.
On dirait un
chambre.
Truc fait à Los Angeles avec Snoop Dogg et je sais pas quoi, mais enfin, c'est incroyable. Et Anne Le Gall ?
Et suite à ça, il a également réussi à remplir le Zénith de Rouen. Vous vous êtes retrouvé au Bataclan, vous attendiez à
en
tout
fait,
ça ?
Non, en fait, justement, ce problème, ce challenge-là, au bout de la 32e semaine, ça ne marchait toujours pas. C'est-à-dire
non.
Que...
Ah, au bout de 32 titres ?
Vraiment, en fait, j'étais en fac d'anglais, j'ai arrêté la fac d'anglais parce que j'avais plus le temps de m'y consacrer. J'étais en 3e année, j'ai arrêté. J'avais qu'un seul petit job de surveillant et c'était vraiment la dèche. Mais la dèche, ma mère est femme de ménage et il y avait les huissiers qui étaient venus pendant le challenge pour essayer de réquisitionner du matos et enfin toutes les galères qu'on puisse imaginer. Au bout de la 30e semaine, toujours 3000 vues par semaine, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et c'est là qu'il y a un youtubeur assez connu qui a parlé de moi qui s'appelle Seb. Et c'est là que les gens se sont dit, mais c'est qui ce gars français qui rappe en anglais et qui fait ces trucs tout seul? Et ça a pris par soi-même, en fait. C'était
Jean-Philippe Ballas.
Moi, j'aimerais savoir comment vous avez été repéré par les Américains. Parce que, non, mais faut quand même imaginer, c'est un peu un gamin qui jouerait au foot sur un terrain vague en Normandie et qui serait soudain approché par le Real Madrid et voilà. Le Barça. C'est ça qui vous est arrivé.
En fait, voilà, exactement. Et quand ça a commencé à percer en France avec ce challenge, quand il y a eu un peu d'ampleur, il y a forcément eu beaucoup de labels qui ont commencé à m'approcher. Et je leur ai clairement dit, écoutez, je vais entamer aucune discussion tant que vous ne me trouvez pas vos affiliés aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que chaque label a des affiliés dans chaque pays. Et quand on sait ça, on peut se permettre de demander des choses. Ce que Universal a fait, ils ont envoyé des sons chez leurs affiliés aux États-Unis. Et en 2 semaines, j'avais littéralement tous les PDG des labels américains qui étaient en mode « Putain, je veux te rencontrer » parce que c'était beaucoup la story, je pense, qu'ils kiffaient du petit Normand dans sa chambre.
C'est un peu le rêve américain en Normandie.
Mais maintenant, après, signer aux États-Unis ne veut pas dire percer aux États-Unis. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est mon premier album.
C'est une première étape
énorme. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à prouver, je pense. Ouais.
Et vous avez aussi cette niaque un peu à l'américaine, j'ai envie de dire. Vous avez été un super élève. Vous avez eu, je crois, un bac scientifique, mention très bien.
Oui.
Est-ce que c'est un cliché d'imaginer que le rappeur n'a pas forcément mention très bien bac scientifique, ou est-ce que vous vous sentez vous-même comme quelqu'un un peu d'à part dans le rap?
C'est vrai que le fait de suivre une formation assez classique, bac S, mention très bien, etc., je l'ai fait surtout pour... je suis issu d'une culture musulmane, les parents sont très sévères par rapport aux études. Et voilà, je veux rassurer la famille, mes parents sont immigrés, j'ai pas envie de les inquiéter en ayant aussi un mauvais parcours scolaire en plus de ça.
Votre album s'appelle Welcome to the Jungle, il sort demain chez Universal. Ah mais putain, mais je connais ça. Ah, je suis à l'antenne. Ouais, je connais ça. Mais vous êtes déjà super connu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes super connu, j'ai écouté ça tout l'été.
Bon. Ah, ça fait plaisir.
Bah ouais. Ah oui, évidemment. Eva.
Amélie Nothon, le rap, c'est pas franchement la musique que vous préférez, je crois. Hein.
Non, mais je trouve que l'histoire racontée par ce jeune homme est extraordinaire. Vraiment, bravo.
Merci beaucoup.
Et juste un dernier mot, pourquoi pas en français? Rapper en français, ça sonne pas bien le français?
Encore une fois, comme je vous l'ai dit, mes parents sont issus d'une culture musulmane et je suis très pudique avec mes parents, c'est-à-dire que je ne m'exprime pas.
Donc c'est pour ça à la base.
Voilà, je vais pas leur raconter mes histoires, mes hauts, mes bas. J'ai pas envie d'inquiéter ma famille pour ça. Donc quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, ma mère dormait à côté dans la chambre et j'étais vraiment, vraiment très pudique. Et je me suis dit, le meilleur moyen de me cacher et d'être honnête dans mes écrits, c'est de le faire dans une langue que mes parents ne puissent pas comprendre,
et ben
donc
voilà.
L'anglais.
On a l'explication. Welcome to the Jungle, premier album qui sort demain chez Universal. Merci Riles Kassimi d'être passé nous voir sur Europe 1. Europe 1, numéro 1 sur le rap. Elle est souvent numéro 1 des ventes. Amélie Nothon est notre invitée jusqu'à 18h pour son nouveau roman Soif aux éditions Albin Michel.
Europe 1.
Vous avez aimé Règlement de compte à Hockey Corral, vous allez adorer L'équipe est sauvage, cette émission où les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent chaque après-midi pour le titre de chroniqueur du jour et où tous les coups bas sont permis, sauf évidemment les coups trop pervers, car je déteste la perversité.
Oh, t'as pas toujours dit ça.
Oui, mais chut, à tout de suite.
16h, 18h, L'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, L'équipe est sauvage continue avec notre invité d'honneur du jour et arbitre de la compétition qui oppose les meilleurs journalistes d'Europe 1. Amélie Nothon nous accompagne jusqu'à 18h pour la sortie de son nouveau roman Soif chez Albin Michel. On continue d'en parler ensemble, mais d'abord un aperçu de ce qui nous attend dans cette heure, ma chère Amélie. Un programme de gala, je n'ai pas peur de le dire, puisqu'on évoquera pêle-mêle la cheville de Neymar, les championnats du monde de judo, des trains pas comme les autres, des tomates aux crevettes grises et le festival de la Coupe Mulet en Belgique.
C'est charmant. Je raffole ce genre de soirée.
Je savais que ça vous plairait, Amélie. On accueille donc Jérôme Lacroix, qui, comme sa musculature ne l'indique pas, est notre spécialiste sport. Jérôme, vous nous parlez judo, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et je vais vous donner une petite équation. Tenez, un cerisier, plus un bambou, plus de la neige, plus un lutteur russe, plus une fessée.
Camoulox
égale les petites histoires du judo dont, vous l'avez dit, les championnats du monde se tiennent en ce moment au Japon, à la maison.
Bien joué. Rapport à Amélie Nothon, j'imagine.
Ah bah.
Ha!
bien évidemment.
Monsieur est habile. À ses côtés, Amélie, je vous présente Pauline Jacquot du service reportage, une passion pour l'investigation qui l'amène loin, parfois un peu trop, comme donc au festival de la coupe mulet en Belgique, car, et c'est la première info, cette coupe existe encore.
Ah, cette coupe existe encore, elle revient totalement à la mode. La Belgique, un festival, une coupe de cheveux, un style, une attitude, un vent de liberté. Finalement, c'est le festival de la coupe mulet à Boussu, en Wallonie.
Dilemme cornélien pour notre invitée Amélie Nothomb, qui devra voter pour son sujet préféré en fin d'émission. Soif, c'est le nom de son nouveau roman, le 28e et autant de best-sellers, on l'a dit. Mais qui est pour vous Amélie Nothomb? On est allé vous demander.
Amélie Nothomb, elle ressemble à une actrice américaine. Elle a une tête d'avoir joué dans le Titanic.
Je connais ses livres, je connais tout ce qu'elle a écrit, j'ai même lu ce qu'elle a écrit. J'étais même fasciné par sa passion pour le Japon.
Elle est écrivaine, elle a toujours un chapeau et elle aime le champagne.
C'est pas un peu flippant, un peu glauque ce qu'elle écrit? Enfin, qui se passe mal, non? Y a pas ça, non?
Mais en fait, elle a une vision assez froide des relations humaines.
Pourquoi vous me demandez si je connais cette personne?
C'est un ton un peu sarcastique.
Quel est le but de ça?
C'est drôle.
J'ai pas d'avis puisque je la connais pas. Eh ben on arrête.
C'est donc un scoop Europe 1. On a trouvé la seule personne en 2019 qui ne connaît pas Amélie Nothomb. Et deuxième scoop, cette personne est éminemment sympathique. Bisous, bisous, comme dirait Anne Le Gall. Amélie Nothomb, dans ce roman Soif, dont on parle depuis 16 heures, vous vous mettez à la place de Jésus portant la croix et vous imaginez ce qu'il a pu ressentir. C'est un livre, on l'a dit, qui interroge la foi, qui interroge surtout le sens du message catholique « Aime ton prochain comme toi-même », sachant que Jésus accepte de mourir crucifié. Je vais vous dire ce que j'ai pensé. Ce que j'ai ressenti à la lecture, c'est le livre d'une personne qui a la foi, une énorme foi, qui voudrait être catholique, mais qui reproche au catholicisme de ne pas être comme elle aimerait qu'il soit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas tout à fait ça, en ceci que je voudrais pas être catholique. Je veux dire, pourquoi je voudrais être catholique?
Et parce que ça vous passionne quand même l'histoire de Jésus.
Ah, mais ça me passionne, mais on peut se passionner pour l'histoire de Jésus sans être catholique. Je n'aime pas ce que le catholicisme et le christianisme en général a fait de l'histoire de Jésus. Ça, c'est certain. Je ne comprends pas pourquoi d'un des plus grands héros de l'histoire, on a fait une version à ce point doloriste. Oui, c'est un héros, mais pourquoi en faire le héros de la souffrance? C'est le héros de l'amour et cette histoire de crucifixion vient tout gâcher.
Vous résumez en disant « Je suis une mystique sans religion, c'est une foi intransitive. Je crois qu'il n'existe pas qu'une vie horizontale, je crois en la verticalité des choses. Cette verticalité n'est pas forcément nommée, je ne sais pas si c'est les esprits, Dieu ou autre chose. Mais en tout cas, vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose de plus que nous. »
Oui, parce que je le sens. Donc, j'ai toujours senti ça, donc j'ai pas besoin d'y croire, je le sens.
Je me permets de vous poser la question, vous ne le ressentez pas intellectuellement, vous le sentez...
Physiquement.
Physiquement.
Je le sens physiquement.
C'est de l'ordre de l'émotion, nous sommes d'accord.
Oui, exactement. Ouais.
Et est-ce que vous trouvez justement que notre époque manque de verticalité? Est-ce qu'on ne pense pas suffisamment à ça? Avec nos téléphones portables, avec nos réseaux sociaux, est-ce qu'on oublie cette relation qu'on pourrait avoir directement avec le spirituel?
C'est certain. Maintenant... D'une certaine façon, ça m'arrange bien qu'on l'oublie parce que je trouve que c'est une question individuelle. Je n'aime pas que ce soit pris en charge. C'est ça qui me dérange dans les religions, c'est cette façon de prendre en charge ce qui, selon moi, doit rester très intime.
Votre éditeur, d'ailleurs, apparemment, vous aurait déconseillé de relater une expérience mystique que vous auriez vécue en Amazonie. Il aurait dit, alors je ne sais pas si c'est juste, il lit...
Alors mon éditeur a dit « Les gens pensent déjà que vous êtes folle si vous publiez ce livre et ils en auront la confirmation. »
Eh bien voilà, Amélie, c'est facile quand vous me donnez la citation que je cherchais sur une autre page. Amélie Nothomb est la meilleure invitée qui soit, celle qui trouve les citations qui sont perdues sur une autre page. Soif, c'est le titre d'un des romans les plus passionnants de la rentrée. Amélie Nothomb est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue sur Europe 1. Dans un instant, la compétition houleuse opposant les meilleurs spécialistes d'Europe 1 se poursuit avec l'entrée en piste de deux nouveaux concurrents, notamment Jérôme Lacroix qui nous entraînera dans les coulisses d'un sport dont on dit qu'il est excellent pour les enfants. Mais l'est-il vraiment tant que ça? Direction les championnats du monde de judo. Ah, fascinant Japon! A tout de suite.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Jérôme Lacroix, Pauline Jacquot. Deux heures où l'allégresse le dispute à l'érudition par l'entremise d'une impitoyable compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Sous l'œil de notre grande arbitre du jour, Amélie Nothomb, pour son nouveau roman Soif, paru chez Albin Michel. Qui sera élu chroniqueur du jour, les amis? Vous votez, Amélie Nothomb aussi. Et là, c'est terrible parce que je sais très bien ce que s'est dit Jérôme Lacroix. Il a fouiné sur Wikipédia, il a vu évidemment le lien privilégié d'Amélie Nothomb au Japon où elle a longtemps vécu, il s'est mis à répéter devant sa glace. Sa femme lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fous, Gégé, je dois me brosser les dents ?» Il lui a dit « Mais je m'entraîne pour l'émission avec Amélie Nothomb. » Et puis, comme il est spécialiste sport, il s'est dit « Ah, je vais faire le judo, ça va lui plaire. Pas de bol, Gégé, le sport préféré d'Amélie, c'est le sumo. » Donc, débrouille-toi avec ça et vas-y pour ton sujet sur les championnats du monde de judo.
Eh bien, je vais tout assumer. Voilà, vous l'avez dit, ce sont les championnats du monde de judo à Tokyo, au Japon, en ce moment. Alors, j'ai eu envie de partager avec vous, Amélie Nothomb, avec aussi les auditeurs, l'histoire, les histoires, en fait, peu banales du judo au Japon et surtout de la naissance du judo. Parce que oui, vous l'avez dit, pas sur Wikipédia, non, non. Mais c'est en me renseignant que j'ai trouvé tout un tas de petites anecdotes que moi-même, qui est plutôt la fibre sport, ben, je ne connaissais pas du tout. Commençons par le plus basique, rien que la signification du mot judo. Alors, je vais me lancer.
Je l'ai eu su, mais j'ai oublié.
La prononciation déjà, je vais le tenter. Judo en japonais. Alors, je tente de répéter minablement ce que j'ai entendu sur Internet.
Judo.
Ouais, c'est Google Traduction, mais bon, voilà, pour avoir un peu l'idée, la tonalité. La voix de la souplesse, ça veut dire. Et l'histoire de la naissance de la discipline, moi, j'ai trouvé ça vraiment très poétique. Je vous présente Jigoro Kano. Il est jeune, hein, une vingtaine d'années, étudiant. La légende décrit notre jeune étudiant observant, écoutez bien, une couche de neige se déposer sur la branche d'un cerisier, une branche solide. Et sous le poids de la neige, eh bien, la branche, elle a cassé. Au contraire, du roseau qu'il a aussi observé, un roseau souple, harassé de la même neige, qui lui a plié, mais n'a pas cassé, il a plié, et la neige a glissé, elle est tombée au sol, et le roseau s'est ensuite fièrement relevé. Conclusion, le faible, pourvu qu'il soit souple, peut vaincre le fort.
Le judo est donc né en 1882.
Voilà, là on est en 1882, Jigoro Kano, il établit les principes de la discipline, alors parmi lesquels, les principes évidemment, c'est très lié à l'esprit, un parfait contrôle de sa propre énergie, et utiliser la force et les intentions de l'adversaire contre lui-même. Jigoro Kano, il parcourt le monde pour faire connaître tous ses principes. Alors, je ne vous ai pas fait le détail de la liste des techniques. Hein. Regardez, bon, voilà, j'en ai quelques-unes.
Voilà,
je ne sais pas combien de pages. Donc,
moi, je les connais tous par cœur.
Oui, bien sûr. Alors, histoire. Un jour, sur un bateau qui le ramène d'Europe, un lutteur russe, un colosse, hein, le met au défi de le mettre au tapis selon les principes qu'il vient d'inventer. Ok, il dit le japonais, et sous les yeux ébahis des autres passagers, eh ben, il parvient à mettre sèchement, en une seule prise, le russe au tapis. On parle d'un russe qui pesait 120 kilos. Jigoro Kano, lui, à ce moment-là, il en pèse 50.
C'est étonnant, je vois bien un biopic de ce Kano.
Oui.
Pas mal. Je vois bien cette scène comme ouverture du film.
Oui, c'est une super histoire.
La discipline plaît en Occident et les premiers judokas européens adoptent des rites dignes des sociétés secrètes.
Sociétés secrètes. Ils signaient avec leur sang une déclaration dans laquelle ils s'engageaient à ne pas révéler le contenu de l'enseignement. Tous devaient connaître par cœur les 365 points vitaux du corps, pour être évidemment des combattants plus efficaces. Et puis il y a aussi un principe alors là, totalement singulier, le kiai, le cri qui tue.
Ah oui,
ah oui. Alors là, plusieurs exemples. Le cri qui terrasse les adversaires. Alors en vrai, c'est plutôt pour décontenancer le vis-à-vis. Alors c'est pas un hurlement, attention, c'est un cri presque sacré qui se veut chargé d'énergie. Ventre bas, liaison puissante avec l'esprit, on l'appelle le cri qui tue. Voilà, il y a une sorte de formidable exaltation, paraît-il, quand on le maîtrise. C'est en tout cas ce que racontent les pratiquants.
Encore plus étonnant, Jérôme, au départ, le judo n'a aucune dimension combative.
Non, non, la discipline a une évocation d'éducation. C'est vraiment ça, de symbiose avec son esprit. L'orientation sportive, elle vient après la Seconde Guerre mondiale, aux alentours des années 50. Alors vous imaginez, les Japonais, qui sont quand même les inventeurs, dominent les premières compétitions. Premier mondial en 56, ils raflent beaucoup de médailles. La consécration prestige suprême pour la discipline et pour le pays, c'est l'arrivée du judo au programme olympique au JO 1965. Et où ça précisément? Eh bien à Tokyo.
Et au Japon, le prestige d'une médaille olympique, j'imagine, en judo est immense.
Oui, les titrés accèdent vite au statut d'icône, mais il faut quand même le dire, le prestige tend à diminuer. La discipline au Japon a été le cœur de quelques scandales ces dernières années, dont celui-ci en 2013. Des jeunes judokas qui auraient été malmenés dans certaines écoles. Des coups de pied, des gifles, des fessées assénées avec un sabre en bambou. Et puis aujourd'hui, il y a aussi autre chose qui éteint un peu le prestige du judo côté japonais.
C'était Dirinère.
Évidemment.
Mais Baroc.
Oui, je me demandais, Amélie Nothomb, vous qui avez vécu longtemps au Japon, est-ce que vous sentez cette influence des arts martiaux quand on vit là-bas? Est-ce que ça fait vraiment partie de la culture au quotidien?
Oui, bon, cela dit, j'ai vécu beaucoup d'années au Japon et personnellement, je n'ai jamais pratiqué les arts martiaux ni. Mais c'est en même temps une logique complètement japonaise. La souplesse, ça c'est. Ça fait partie de l'idéologie japonaise, même quand on ne pratique pas de sport.
Oui, et renverser l'autre, même quand il est plus fort que nous, par l'astuce ou la souplesse, c'est très japonais. Merci Jérôme, j'ai bien aimé cette enquête sur le judo.
Ah oui,
mais voilà, le règlement est le règlement, voici. la question vache de l'autre chroniqueur, chroniqueuse en l'occurrence, Pauline Jacquot. J'ai une question pour Jérôme.
Oui, parce que Jérôme, vous avez misé sur la poésie. Très bien. Oh. Hein, mais judo, judo, ça reste un sport. Donc, j'ai une question à 1000 points, un peu sportive. On va y aller quand même. Pour voir si vous avez quand même bien révisé. Qu'est-ce que le Yusei Gashi ? Parce que moi, contrairement à vous, je prononce extrêmement bien le japonais.
C'est pour ça que j'ai préféré mettre une illustration.
Une pastille, évidemment.
Eh bien non, je ne sais pas. Je vous avais vu, j'avais dit, j'ai déminé un peu.
Vous avez pourtant des antisèches, bah, oui, mais vous n'avez pas le temps de les utiliser. C'est perdu.
Je connais le hippon, qui est un peu la prise de reine.
Voilà, attendez, qui clôt double question match. Pauline Jacquot, vous connaissez la réponse ?
Bien sûr. Bah, c'est une victoire par supériorité.
Oh, bah, Pauline Jacquot marque des points.
C'est beaucoup plus clair maintenant qu'on a sa réponse.
C'est très clair. Merci Jérôme Lacroix. Votre chronique aura-t-elle séduit Amélie Nothomb, même si elle est plus sumotorique que judoka ? Le dénouement n'est plus très loin.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue 2 heures pour mieux comprendre le monde qui nous entoure sans jamais oublier d'en rire, avec ce souci de toujours être là où ça se passe qui nous caractérise. Avant de nous rendre en Belgique pour le festival de la Coupe Mulet, nous prendrons le chemin de l'Espagne et de Barcelone où notre correspondant nous livrera les derniers rebondissements du dossier Neymar, la star en partance ou pas du PSG. Mais d'abord, vous prendrez bien un peu de Katy Perry. Voici Firework sur Europe 1. Firework, c'était Katy Perry sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'exigence intellectuelle de bouillon de culture, l'énergie potage des amours. À mes côtés, avec Eva Rock, eux, ils ne s'aiment pas, ils se détestent. Jérôme Lacroix et Pauline Jacquot du service reportage d'Europe 1. Deux collègues en lutte pour le titre de chroniqueur du jour, sous l'œil juste mais sévère de notre invitée Amélie Nothomb pour la sortie de son nouveau roman, Soif, où elle imagine les dernières heures de Jésus. Je sens, Amélie, qu'au moment de choisir le gagnant, vous ne tremblerez pas. Vous serez ferme.
Oui,
vous
me connaissez bien.
Ouais. Je vous connais bien. Non, c'est vrai, vous êtes agrégé, vous avez failli être prof. Vous dites, il y a toujours un prof qui assassine et un prof qui vous sauve la vie. Si j'avais enseigné, j'aurais eu peur de la tentation d'assassiner. J'espère que vous allez être saignante tout à l'heure. D'abord, laissez-moi, ma chère Amélie, vous entraîner en Espagne.
Ah, ça fait longtemps.
Fascinante Espagne. Où nous retrouvons notre correspondant à Barcelone, Henri de Laguérie. Déjà, êtes-vous seul, Henri ? Parce que la dernière fois...
L'exécutif catalan a organisé ce référendum d'autodétermination, un référendum illégal, et un référendum, eh bien, c'est le...
La dernière fois, Henri, vous n'étiez pas vraiment seul, hein ? On s'en souvient. Alors, on en parle beaucoup ici, dans les journaux, chaque matin, en Espagne, il paraît que c'est encore pire, surtout à Barcelone. On n'en peut plus, on veut savoir. Neymar, le prodige du ballon rond, qui joue actuellement au PSG, ira-t-il, oui ou non, en Espagne ? Peut-être à Barcelone. Dites-nous où on en est.
Eh bien, alors écoutez, les valises de Neymar sont prêtes. Ah. Le pilote de son jet privé attend le signal de départ pour décoller en direction de Barcelone. Le champagne, ou plutôt le cava, hein, vous savez, c'est ce qu'on boit ici à Barcelone, est au frais. Le problème, c'est que la superstar attend un accord qui ne vient pas entre le PSG et les Catalans. Ça ressemble à des conversations entre marchands de tapis, Mathieu. Barcelone propose 130 millions d'euros plus de joueurs. Le milieu croate à Rakitic, qui serait cédé. Et le français Ousmane Dembélé, qui lui partirait en prêt pour un an. Mais ce deal se heurte à plusieurs difficultés. Rakitic n'est pas très emballé, et Dembélé encore moins, pas question d'aller à Paris, dit le français. Et puis finalement on se demande si ce serait une bonne affaire pour les Parisiens. Le Croate a 31 ans, il est plutôt sur la pente descendante, vous savez en football ça se termine assez vite, tandis que le jeune attaquant des Bleus est connu pour ses blessures à répétition, son addiction pour les jeux vidéo, les nuits courtes et les hamburgers, et d'ailleurs il a pris la mauvaise habitude d'arriver en retard à l'entraînement à Barcelone ou de sécher les contrôles médicaux, ça c'était la semaine dernière. Bref, le PSG, la direction n'est pas convaincue par ce deal, et si on en croit la presse aujourd'hui, il réclame désormais le PSG 170 millions d'euros, point barre, personne en plus. Les dirigeants des deux clubs vont se rencontrer ce soir à Monaco pendant le tirage au sort de la Ligue des Champions, ça commence à 18h. Le Barça va-t-il sortir une nouvelle offre de son chapeau ? Peut-être. Mais honnêtement, franchement, plus le temps passe, plus on a l'impression que cette opération est compliquée, pour ne pas dire impossible.
Mais est-ce qu'à Barcelone, où vous vivez, Henri, on souhaite vraiment le retour de Neymar ?
Alors écoutez, on est sceptique, évidemment, c'est un super joueur, mais on n'a pas oublié qu'il a quitté le navire il y a 2 ans. Allez. Ensuite, oui, Neymar a traîné devant la justice le Barça pour des histoires de gros sous. Et puis son goût pour la fête, ses caprices, ses voyages au Brésil à quelques heures de matchs importants ne plaisent pas beaucoup aux supporters qui sont ici très sérieux, très exigeants. Et puis on se demande finalement si ce joueur assez immature, il faut bien le dire, retrouvera le droit chemin. Et puis, quid des finances du club? Faire des folies pour faire revenir ce joueur, c'est sans doute hypothéquer l'avenir parce qu'il n'y aura plus d'argent après ça. Après, évidemment, ça reste un méga crack, comme on dit ici. Un joueur avec qui on peut remporter une Ligue des Champions.
S'il ne se blesse pas. Ah bah oui,
bien sûr.
Eh
ouais. Voilà, parce que ça fait quand même deux printemps qu'il est blessé et donc le PSG n'a pas pu compter sur lui. En tout cas, qu'il parte ou qu'il reste, Neymar devra rapidement retrouver le chemin des buts, regagner le cœur des supporters, car son image est sérieusement écornée.
Et notre Grisou, notre Antoine Griezmann dans tout ça, qui vient d'arriver au Barça cet été, il a du souci à se faire?
Et effectivement, vous savez, ici on l'appelle El Principito, le petit prince Antoine Griezmann. Bah, lui, il fait plutôt la tête. Hein. C'était la recrue star du début de l'été en Catalogne. Quand il a signé au club, il ne pensait sûrement pas que quelqu'un d'autre puisse lui voler la vedette en cette fin de mois d'août. Et si Neymar vient au Barça, bien, le Français devra batailler pour être titulaire. Il y aura beaucoup de monde en attaque. Et puis Neymar et Messi, c'est les meilleurs amis du monde. Notre champion du monde pourrait se retrouver à l'ombre de ces deux joueurs, un peu comme un bon élève qui serait mis au banc par les deux beaux gosses de la classe.
Merci beaucoup, Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Amélie Nothomb, qu'on puisse s'exciter autour du transfert d'un joueur de foot, aussi doué soit-il, c'est quelque chose qui vous dépasse, ou bien vous vous dites, après tout, chacun sa star, chacun son Jésus?
Écoutez, je connais tellement rien au football que je vois même pas ce que je pourrais vous dire.
Puisqu'on évoque les polémiques du moment, puisque la polémique Neymar en est une polémique qui doit en revanche vous interpeller en tant qu'écrivaine, c'est celle autour du dernier roman de Yann Moix. Pour vous, la licence littéraire autorise de raconter ses proches, ou bien il y a une ligne rouge, et visiblement Yann Moix l'a franchi?
C'est une question vraiment très très gênante.
Finalement pas tant que ça, parce que vous écrivez des romans. Est-ce que vous avez déjà pensé mettre en scène des proches ou raconter quelque chose qui
est... Je l'ai fait maintes fois, mais je sais que jamais je ne m'autoriserai à nuire à qui que ce soit que je connais, même à quelqu'un que je n'aime pas, dans un de mes livres. C'est un choix personnel. De là à dire que c'est une loi absolue, ça, j'en sais rien. Je sais simplement que moi, je ne le ferai pas.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, on vous sent parfois, Amélie Nothomb, un peu en dehors du monde. Vous n'avez pas de portable, pas d'ordinateur, paraît-il, je lis ça.
C'est la pure vérité.
Pas d'ordinateur. Mais vous écrivez comment?
À la main, dans des cahiers.
Ah, et c'est donc à la maison d'édition qu'ils doivent tout
remettre
sur Word.
J'apporte le cahier chez Albin Michel, exactement.
Eh bien, on embrasse les petites mains d'Albin Michel. Eva Roque.
Est-ce que c'est toujours la même personne qui retranscrit,
C'est toujours la même personne, elle connaît bien mon écriture, c'est des petites pattes de mouche et elle peut très bien me lire.
Est-ce que vous vous sentez du coup en décalage avec votre époque, ou vous vivez très bien le fait de ne pas avoir de portable?
Je le vis très bien, c'est un choix et je ne me sens pas du tout déphasée par rapport aux autres. Je me sens beaucoup moins embêtée que les autres. Quand je vois tous les soucis qu'ils ont avec leur téléphone portable et leurs ordinateurs, je suis très contente de ne pas en avoir.
Soif, c'est le titre de son nouveau roman aux éditions Albin Michel. Amélie Nothomb est l'invitée d'honneur d'Europe 1 cet après-midi.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe sauvage, l'ultime phase de notre Ligue des Champions à nous, celle qui oppose chaque après-midi les meilleurs chroniqueurs de la rédaction. Un seul gagnant, votre Culture G, et aussi des journalistes d'Europe 1. Vous votez via Twitter et Facebook. Amélie Nothomb, notre invitée, elle vote, elle, par fax ou par pneumatique à sa convenance. Pigeon voyageur, si elle veut. On se retrouve dans un instant pour la dernière chronique en compétition. On prendra la direction de la Belgique.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Roque, Pauline Jacquot, Jérôme Lacroix. 2 heures où l'info flirte avec le rire sous l'œil magnanime de notre invitée Amélie Nothomb pour la sortie de son nouveau roman Soif chez Albin Michel. Un livre dans lequel le narrateur n'est autre que Jésus, qui nous fait part de ce qu'il ressent durant sa passion. Alors Amélie Nothomb, vous sortez un livre par an avec une régularité horlogère. Vous êtes en somme l'antithèse de l'écrivain tel qu'on l'imagine parfois, hein, le cliché, l'écrivain doutant, traversant des phases d'élan créatif, des jours de pages blanches. Vous êtes métronomique.
J'ai instauré en moi la tyrannie de l'écriture. Je ne me donne absolument pas le droit de passer un seul jour, même si je suis malade, même si c'est la fin du monde, sans me réveiller au plus tard à 4 heures du matin et sans écrire un minimum de 4 heures par jour.
Vous venez de dire au plus tard à 4 heures du matin.
Au plus tard, ça veut dire souvent plus tôt.
Et que l'inspiration soit là. Que l'inspiration soit là ou pas, vous vous astreignez à vous mettre, non pas devant l'ordinateur, du coup on l'a compris, mais devant la feuille.
C'est ça.
Ce que ça vienne.
Je ne me pose absolument pas la question de l'inspiration. Si on se pose la question de l'inspiration, c'est foutu. Donc il faut y aller, il faut y aller. Quand j'écrivais Soif, la question n'était pas celle de l'inspiration, puisque je l'avais. Mais par contre, la question était celle de la dureté, surtout pendant les pages, la moitié du livre qui se passe sur la croix. Vous vous rendez compte que je me réveillais le matin et que je disais « Allez, tu retournes sur la croix !» Je vous assure que je n'avais aucune envie d'y aller, mais je me forçais à y aller quand même.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que quand vous commencez l'écriture d'un roman, vous allez jusqu'au bout ou vous pouvez en écrire deux à la fois?
Non, absolument pas.
Jamais.
C'est bien pour ça que je parle de grossesse, c'est un à la fois.
Ah bah, on peut avoir des jumeaux.
J'ai été enceinte de jumeaux, c'est Mercure. Mercure, c'est mes jumeaux. Oui.
Il paraît que Soif est en fait non pas votre 28e roman, mais votre 93e roman. Est-ce
Absolument.
Que déjà le chiffre est juste?
Oui.
Donc il y en a 65 qui dorment dans le placard. Si vous les trouvez juste un poil moins bien, on fait un deal, vous me les filez, je les signe, vous récupérez 90% des droits d'auteur et je m'occupe de la promo. C'est gagnant-gagnant ça, Amélie.
Vous savez, les livres que je ne publie pas sont tout autant mes enfants que les livres que je publie et je les aime tout autant, donc
vous
je suis désolée, je ne le ferai pas.
Tant pis pour moi. L'écriture pour le cinéma ou la télévision ou pour Netflix, hein, puisque c'est la mode en ce moment, ça vous tente pas? Vous avez contacté?
Absolument pas. On me l'a maintes fois proposé. Je ne connais qu'une seule façon d'être enceinte et je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à une autre. Je suis très occupée par mes enfants.
Et donc, pas d'un point de vue professionnel, mais vous, est-ce qu'il vous arrive de consommer la télévision, de regarder des séries, des films?
Je n'ai pas la télévision.
Vous n'avez pas la télévision. Le problème donc ne se pose pas pour vous, mais il se pose pour beaucoup de nos auditeurs parce que le problème, c'est qu'on la regarde trop encore, la télé. Selon une étude récente, on perd désormais chaque soir 17 minutes rien qu'à errer sur la page d'accueil de Netflix et autres plateformes de VOD, tellement le choix est infini. Heureusement, pour vous guider, vous pouvez désormais compter sur Evaroc. Encore 17 minutes de gagner ce soir, grâce à vous.
Oui, mais alors bon, alors ça sera pas pour vous, Amélie Nothomb, mais c'est évidemment pour tous les auditeurs. Je vous propose de regarder une émission sur France 5 à 20h50. La première édition de cette émission date de 1987 et l'émission perdure. Et depuis 2011, elle est incarnée par un garçon dont je suis fan qui s'appelle Philippe Googler. Bienvenue dans le monde curieux et insolite de cette émission qui s'appelle Des trains, pas comme les autres. Et on part pour le Costa Rica ce soir. Ça commence avec une scène assez improbable. Sur un rail, Philippe Googler, donc le présentateur, aperçoit une drôle d'embarcation.
On dirait une vache sur une planche sur des rails. Une vache qui n'a pas l'air en forme.
Oui, alors effectivement, la vache, elle se porte mal et c'est le seul moyen de transport disponible pour aller chez le vétérinaire. C'est de mettre cette vache sur cette planche et d'utiliser les rails comme un moyen de transport. Philippe Googler va monter à bord pour accompagner le couple de paysans et la fameuse vache. Scène plutôt cocasse, enfin jusqu'au moment où...
Viens un train.
Je crois que j'entends un train qui arrive.
Un train là?
Oui.
Mais arrêtez.
T'as peur, hein?
Vas-y.
Mais oui, on va s'arrêter, il y a un train.
On entend le train.
Mais c'est très dangereux.
Ah, c'est la vie, c'est comme ça. Si on reste sur la voie...
Cette situation est folle. Avec la vache qui est là, qui attend.
Et oui, cette ligne de train, elle est très utilisée et par des trains qui vont très très vite. Donc les paysans, à eux de décarpir aussi vite que possible des rails pour pouvoir sauver leur peau et en l'occurrence le pot de la vache. La peau de la vache.
Oui, le pot de la vache, on ne voit pas très bien à quoi vous faites référence.
Ce numéro des trains pas comme les autres, gorge de moments décalés comme ça. Alors vous allez découvrir un train brinque-ballant en ville, un train suspendu pour transporter des régimes de bananes dans les campagnes parce que la banane, figurez-vous, c'est la deuxième source de revenus du pays, du Costa Rica, après le tourisme. Ou encore une balade dans la forêt avec un chasseur de serpent. Voilà ce qui vous attend ce soir. Tout est magique, voire poétique. Notamment quand Philippe Googler s'invite à l'anniversaire d'une petite dame. Elle a 100 ans. Elle fait les yeux doux à son voisin d'anniversaire. Lui, il a 104 ans. Ouais. Parce qu'il n'y a pas qu'au Japon où on vit longtemps. Au Costa Rica aussi, 13% de la population a plus de 90 ans. Et 5% plus de 100 ans. C'est à découvrir ce soir sur France 5 à 20h50. Ne loupez pas ça. Ou sur la plateforme France.tv.
Et bien voilà. Emballer, c'est peser. 17 minutes de gagner. Merci, Yavaroc.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, continue et nous entrons fébrile, et même pour certains d'entre nous, moite, dans une zone de suspense intense. Qui sera élu chroniqueur du jour? La compétition continue avec l'entrée en lice d'une femme que Jérôme Lacroix attend avec impatience. Ça fait longtemps qu'il en rêve.
Zaya.
Mais non, vous rêvez de vous mesurer à elle, je veux dire votre collègue Pauline Jacquot, qui va tenter à son tour de décrocher le titre de chroniqueuse du jour avec un sujet risqué, hein, sur une mode qu'on croyait passée, celle de la coupe mulet, qui fait visiblement un comeback. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Nous sommes au cœur d'une féroce compétition mettant aux prises les plus valeureux journalistes d'Europe 1. Compétition qui entre dans sa phase décisive, comme disait Achille devant les remparts de Troie.
Tel le nain devant un urinoir, j'allais devoir placer la barre très haut.
C'était peut-être pas Achille, je sais plus. Voilà la maxime qui doit en tout cas habiter nos concurrents qui jouent pour le titre de chroniqueur du jour au service, évidemment, de votre culture G et sous l'œil de notre arbitre du jour, Amélie Nothomb, qui publie Soif chez Albin Michel. Amélie, si je vous dis qu'on va à présent parler du retour de la coupe mulet, êtes-vous capable de deviner dans quel pays nous allons partir?
En Belgique.
C'était vachement une question. Et oui, une première qui a marqué l'histoire au moment où Cannes déroulait son tapis rouge au Stade de la Croisette, de l'autre côté de la frontière, en Belgique, la petite commune wallonne de Boussu,
c'est bien
ça,
exactement.
Tenait elle aussi son festival le festival de la coupe mulet. On la croyait, mais alors totalement has-been, et bien pas du tout. Elle revient à la mode. La coupe mulet tendance, on a du mal à le croire, et pourtant, cet été, le comeback était là.
Ah oui, c'est le comeback de l'improbable. Il revient, il est là, n'ayez pas peur, mais le mulet reprend du poil de la bête. Oh la série Stranger Things, vous avez vu, tout le monde connaît. Bah voilà. Les deux ados, Billy et Steve, eh bien, ils ont la coupe mulet. Brad Pitt sur les marches de Cannes.
Non, pas Brad Pitt.
Et si, alors. Attention, coupe
mulet discret.
Un petit mulet discret, mais un mulet quand même. Voilà, à partir d'un moment, c'est un mulet. Taylor Swift, Rihanna, éphémère mulet, mais également coupe mulet, ça c'est sûr.
Pauline, décrivons la coupe mulet, pour ceux qui ne sont pas nés comme nous dans les années 80, en tout cas en ce qui me concerne.
Très simple, court devant, long derrière, un petit peu court sur les côtés également, hein, dans quelque chose de, voilà, de, d'un peu controversé. Hein,
Controversé capillairement, c'est vrai.
Controversé capillairement, mais un constat, si vous doutez de sa popularité, qu'est-ce qui relie Johnny Hallyday, Francis Cabrel, André Agassi, McCartney, David Beckham,
le talent,
George Michael aussi, et Jeff Tuche? Eh bien oui. Eh bien la réponse, c'est le mulet.
C'est
le
vrai.
Mulet, c'est populaire.
Non mais d'accord, mais le mulet, c'est quand même moche.
Alors voilà, alors tout de suite, voilà.
À un moment, le débat doit s'arrêter, c'est-à-dire que...
Alors justement, non. On arrive au point critique, l'esthétisme. Alors je dis attention à tous ceux qui veulent enterrer cette coupe un peu rapidement. Certes, une coupe originale. Écoutez, le mulet, c'est un mode de pensée, un style de vie, c'est s'insurger contre les conventions et les attentes sociales. C'est une île de liberté dans un océan de conformisme, selon les mots de l'organisateur du festival, Damien Hubert.
Nous, ce qu'on met comme sens à la coupe mulet aujourd'hui, c'est une affirmation de liberté fondamentale. On n'est pas du tout dans la recherche du canon esthétique pour aller faire des prix de beauté, mais on est plutôt sur vraiment une affirmation de soi. Je suis libre et je le montre.
Je suis libre et je le montre, c'est
qu'est-ce
beau.
Que j'aime les beiges.
On est sur quelque chose. Voilà, de totalement assumer une ode à la joie, à la liberté d'être qui on veut. Et c'est aussi la promesse de l'humour en toute bienveillance. Au festival, on décline pas mal de choses avec le mulet et on salue les jeux de mots. Différents stands dans ce festival, Titi et Gros Mulet, les contes des mules et une nuit. On déguste aussi de ci de là des mules frites.
Évidemment.
Et voilà, il y a donc un petit côté un peu déglingo et surtout complètement international.
Les Américains qualifient cette coupe en disant « business in the front, party at the back ». Et donc c'est vraiment de revendiquer qu'on a au moins deux côtés, la rigueur et la D1. La D1, c'est un mot de chez nous qui évoque un petit peu tout ce qui va au-delà de la bienséance, des codes, des conventions orientées délire.
Voilà, délire, la D1, c'est le mulet, c'est D1, c'est délire. C'est la déglingue, voilà, c'est vraiment cette ode à la joie, hein, c'est vraiment, on peut le dire comme ça. Et à ce moment-là de l'interview, j'espère que vous saluerez mon courage, Mathieu, Eva, Amélie, Jérôme, je suis obligée de poser une question qui fâche. La queue de rat, on est d'accord, ce n'est pas du tout un mulet.
Ah alors, pour nous, la queue de rat, c'est aussi une longueur dans la nuque. Donc, c'est vrai qu'elle est réduite à sa plus simple expression. Je ne sais pas s'il y a encore des adeptes de cette coupe aujourd'hui.
Donc, vous n'êtes pas complètement fermé au queue de rat.
Non, voilà.
Voilà.
Une belle ouverture d'esprit, la tolérance.
Exactement. Une preuve encore, s'il en fallait encore une démonstration de cette ouverture d'esprit du mulet. Voilà, c'est quelqu'un qui va dire à une toute petite queue de rat qui se balade, et voilà, on dit bienvenue, entre toi aussi, dans cette grande famille mulet.
Et la grande famille mulet, justement, ça remonte à quand, cette histoire, en
alors,
fait?
Alors, c'est aussi là toute la beauté de cette histoire. C'est la coupe de l'Antiquité, exactement.
Mais
ça a fait fureur en Grèce antique, parce qu'évidemment, il y a un côté pratique. Les pharaons aussi, grands fans du mulet, hein, front découvert pour bien voir, nuque longue pour se protéger du soleil ou du froid. Dans les années 80, évidemment, là c'est l'apogée du mulet, c'est l'âge d'or, grâce à des icônes. Alors on a cité quelques icônes tout à l'heure, mais à qui vous pensez d'autres comme...
Tony Verrel, l'attaquant de l'Universel Lens.
Je donne un petit indice en chanson.
Ah, MacGyver !
Ah oui, MacGyver !
Voilà, le seul, l'unique, celui qui peut fabriquer un hélicoptère avec des trombones, c'est MacGyver. Donc, Amélie Nothomb, vous avez dit dans une interview que j'ai entendue, ce qui est difficile et plus intéressant. Alors voilà, moi je vous invite à venir casser les codes avec
et
audace.
Ben là, pour casser les
votez
codes.
Bien, votez mulet, votez rock'n'roll.
Bravo Pauline Jacquot.
Génial.
C'était pas mal du tout. Vous allez peut-être l'emporter aujourd'hui, mais vous n'y couperez pas. La question vache de l'autre chroniqueur. Jérôme est tellement séduit qu'il avait oublié la question vache.
Non. Plutôt qu'une question vache, d'abord, ce que je constate, c'est que vous êtes moqué.
Absolument. C'est la bienveillance.
J'ai senti une petite ironie. Puis en plus, moi, j'ai tout bêtement cherché. Alors vous êtes peut-être pris dans votre carcan de la coupe mulet. Je vois que vous êtes totalement séduite. J'ai trouvé un papier très récent dans la presse qui dit coupe de cheveux courte, modèle, idée et tendance. Voilà, que la coupe c'est du moment.
C'est une coupe courte, en fait.
C'est la coupe courte. Vanessa Paradis, Jennifer Lawrence, Halle Berry, Sharon Stone, Victoria Beckham, Audrey Tautou, qui en ont fait leur marque de
vous
fabrique.
Vous pouvez passer votre article à Amélie Nothomb, bon, évidemment, ça l'intéresse. Hein, Amélie, voilà. Amélie, vous avez eu des égarements capillaires, vous, dans votre
oh
vie?
Oh non, je pense que je n'ai jamais changé de coiffure de toute ma vie.
Vous avez
mais
toujours été classique.
Je ne savais pas que Vanessa Paradis s'était coupée les cheveux, je voulais voir ça.
Ça va peut-être vous inspirer. Soif, son 28e roman est l'un des événements de la rentrée littéraire. Amélie Nothomb et notre équipière sauvage jusqu'à 18h sur Europe 1.
Europe 1.
La Ligue des champions des journalistes d'Europe 1 touche à sa fin. Nous connaîtrons bientôt le grand gagnant, ce journaliste dont le sujet vous aura le plus intrigué aujourd'hui. Mais un doute me saisit tout à coup. Tête en l'air comme je vous connais, est-ce que vous ne seriez pas dans votre voiture sur le chemin de la maison? Est-ce que vous ne vous apprêteriez pas à rentrer tranquillou sans avoir pensé à faire les courses pour le dîner? Ne pilez pas non plus, il y a peut-être quelqu'un derrière. Enfin, heureusement que Delice in Extremis est là pour vous souffler une recette de dernière minute. Je me demande comment vous faisiez avant. A tout de suite.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Le moment de vérité approche, l'équipe est sauvage est entrée dans sa phase finale, mais sur la route du retour, je vous imagine fort bien, chers auditeurs. Fasciné par notre invitée Amélie Nothomb et ne pensant plus qu'à une chose, trouver une Fnac pour acheter son roman Soif chez Albin Michel, vous en oubliez tout, comme par exemple penser à une recette pour le dîner. Quand votre femme arrivera vannée du boulot et vous demandera « Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Vous lui direz quoi ?« Désolé chérie, j'ai passé l'après-midi avec Amélie Nothomb ?» Eh ben oui, vous pouvez lui dire ça puisque dans l'équipe est sauvage, on pense aussi à faire vos courses. Voici Delice in Extremis. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Amélie et bonjour tout le monde évidemment.
Où êtes-vous donc, Olivier, mon cher Olivier, cet après-midi?
Ah, j'aimerais vous dire que je suis sur les bords de la mer du Nord entre Knokke-le-Zoute et Blankenberg pour rendre hommage évidemment à Amélie Nothomb qui a plusieurs qualités dans la vie, mais elle a au moins celle d'être belge comme moi et d'aimer le champagne comme moi. D'ailleurs, le titre de son dernier roman, Soif, c'est un peu l'histoire de ma vie.
Ça, oui. Mais, sauf que vous, contrairement à Amélie, vous l'étanchez souvent votre soif. Hein, vous ne reculez pas, voilà, le moment de l'étancher. Quoi. Et vous nous proposez aujourd'hui un plat, du plat pays.
Oui,
mon
bien
cher
sûr,
Olivier.
Mais avant de venir vous retrouver demain en studio, je fais un petit crochet par la Lorraine pour embarquer quelques mirabelles et on en parlera demain. Mais avant, cuisine belge oblige, l'un des emblèmes de la grande gastronomie belge, c'est la fameuse tomate crevette. Et j'imagine qu'Amélie a dû en manger étant jeune et peut-être continue-t-elle d'ailleurs.
J'adore
encore
ça.
En manger.
Mais c'est facile à faire ça, la tomate crevette?
Mais c'est enfantin à réaliser. Alors c'est tellement facile que je vais un peu vous la compliquer parce que sinon la chronique ne ferait que 12 secondes et je ne justifierai pas mon salaire. Donc je vais un tout petit peu vous la compliquer, cette tomate crevette. Alors c'est vraiment le plat emblématique de la Belgique. C'est un plat qui a été créé, inventé et qu'on mange toujours dans les familles accompagné de frites en général. Le principe c'est simple, c'est une tomate qu'on a évidée. On a pris des crevettes grises de la mer du Nord. Alors ça c'est très très important. Pas des crevettes roses de Madagascar ou de je ne sais quoi. De la vraie bonne crevette grise de la mer du Nord qu'on achète en Belgique, déjà décortiquée, ce qui fait gagner pas mal de temps. Mais on peut les trouver en France et de temps en temps chez les poissonniers, il y en a un petit peu, donc on n'hésite pas, on prend une jolie poignée de crevettes grises. On réalise une mayonnaise, alors la base classique, hein, ça tout le monde, j'espère, c'est à peu près l'affaire. Eva, rappelez-nous les règles d'or de la mayonnaise.
Alors je sais surtout qu'il faut faire couler l'huile tout doucement avec
non, ça c'est une autre pratique, Eva.
Non, c'est vrai. Non, mais que vous êtes bête, Mathieu. Et Olivier, ne riez pas.
Oui, c'est vrai que le secret pour réussir une mayonnaise, c'est de mettre l'huile de manière très parcimonieuse au début, et puis on accélère un peu le mouvement. Donc jaune d'œuf, un peu de jus de citron. Moi, je rajoute de la moutarde parce que ça la dope. Et ma petite astuce pour cette tomate crevette légèrement twistée, c'est de rajouter de l'estragon. Je trouve que l'estragon et la tomate et la crevette, ça marche extrêmement bien. Alors l'estragon, c'est une herbe délicieuse. Il ne faut pas en mettre trop, juste quelques brins comme ça. Donc on va enrober nos crevettes de cette mayonnaise à l'estragon. Sel, poivre. On prend une petite collection de tomates. En ce moment, il y a tout ce qu'il faut sur les marchés. On va prendre une verte, une green zebra, on va prendre une jaune, on va prendre, pourquoi pas, une noire de Crimée. On va délicatement enlever le petit chapeau avec une cuillère à pamplemousse. Vous savez, ce sont ces cuillères un peu rondes. On va évider la tomate. On ne va pas acheter ça. On va se faire un petit coulis après, tranquillement, pour le lendemain, parce que j'aime pas gâcher la nourriture. Et puis, on va remettre à l'intérieur de nos tomates évidées cette préparation de crevettes. On rajoute le petit chapeau. Et puis, il n'y a plus qu'à déguster. C'est simplissime et c'est vraiment délicieux.
Merci beaucoup, Olivier Pouls. Cela dit, vous reviendrez, vous m'achèterez une cuillère à pamplemousse, hein, parce que je n'ai pas ça dans ma cuillère. Tout le monde n'est pas équipé comme vous, mon cher Olivier.
Absolument, mais si vous avez une cuillère simple et un tout petit peu de dextérité, ça le fait aussi sans problème.
Oui, c'est la dextérité qui me fait défaut. Amélie Nothomb, est-ce qu'Olivier vous a ouvert l'appétit avec ses tomates et ses crevettes?
Mais surtout, il m'a donné la nostalgie parce que j'ai mangé ça toute mon enfance, toute mon adolescence. C'est vraiment, il n'y a pas plus belge qu'une tomate ou crevette.
Amélie Nothomb est avec nous pour son livre Soif chez Albin Michel, où elle imagine ce que Jésus a pu ressentir sur la croix. Est-ce que vous allez l'envoyer au pape, ce livre ?
J'ai pas son adresse, mais sinon je la lui enverrai certainement.
Vous tapez le pape Vatican, à mon avis, ça va finir par arriver, hein, ça devrait jouer. Amélie Nothomb est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Affrontement, fratricide, trahison, coup bas, tous les ingrédients de la tragédie grecque sont réunis au service de votre savoir dans l'équipée sauvage, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1, la première émission où l'invité note les journalistes. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Plus que quelques infimes secondes avant de le découvrir.
Comment on dit ? Allez, encore une petite queue de cigale ?
Je ne connaissais pas l'expression, mais sacré Jérôme, à tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipée sauvage. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue et cette fois nous y sommes. Sous la haute autorité d'Amélie Nothomb, qui était notre invitée aujourd'hui pour son nouveau roman Soif chez Albin Michel, où elle imagine les derniers jours de Jésus, roman que nous vous invitons à acheter très vite avant qu'il soit en rupture de stock, les journalistes d'Europe 1 se sont affrontés tout l'après-midi. En jeu, le titre de chroniqueur du jour, qui sera élu aujourd'hui ? Vous avez voté via Twitter et Facebook, mais nous allons tout d'abord découvrir le vote de notre invitée. Attention Amélie, votre voix compte triple. Ne la jouez pas à pique et pique et collégramme. Hein. Pesez vraiment les pour et les contre et dites-nous qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour.
Les quatre sujets étaient vraiment excellents et magnifiquement traités.
Quelle invité.
Cela étant, je suis désolée, il y a quand même un journaliste qui dépasse et c'est Pauline Jacquot.
Et c'est Pauline Jacquot pour la coupe mulet. Et surtout, manière dont elle l'a vendue. C'est donc 3 points pour Pauline Jacquot qui fait son entrée dans la compétition en fanfare. Bravo Pauline.
Mérité.
Maintenant, nous allons découvrir qui le public et a choisi.
À 45% pour la coupe mulet.
Oh ah, et bien alors, ma voix n'a plus aucun sens, plus aucun poids, plus aucune importance, puisque je n'ai qu'un modeste point. C'est Pauline Jacquot. Moi, je donnais ma voix, je vais vous le dire, à Jérôme Lacroix. Oh, j'ai trouvé passionnante sa chronique sur le judo. Mais c'est Pauline Jacquot qui triomphe aujourd'hui, qui remporte cette 4e édition de l'équipée sauvage. Bravo Pauline, avec une invitée passionnante, Amélie Nothomb, pour son dernier roman, Soif, publié chez Albin Michel. Vous persistez, vous signez Amélie, de tous vos bébés, comme vous appelez vos livres, c'est le plus important.
C'est le plus important, c'est terrible de dire ça, mais je n'ai jamais dit ça auparavant.
Et là donc on le dit, achetez-le. Un grand merci à vous, Amélie Nothomb. Et merci également à la Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Anne Le Gall, Pauline Jacquot, Jérôme Lacroix, Jean-Philippe Ballas, ma complice Eva Rock bien sûr. L'équipe est sauvage revient demain 16h. L'info avec un grand I, c'est tout de suite sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Mathieu, on vous retrouve avec votre équipe, évidemment, demain dès 16h, vos invités également.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.